Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi?
Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du ciné que nous aimons tant ici, une petite heure ou presque, on va causer, débattre et se marrer un peu aussi tant qu'à faire, sans oublier de répondre à toutes vos questions. Et pour assurer cette mission protéiforme, ils sont cinq autour de la table ici à l'antenne Paris. Anaïs Bordage, salut Anaïs.
Salut.
Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut.
Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour Thomas.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Et Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
Les problèmes de projection de Solo, la VF dans l'animation et les soucis en vue pour le ciné français avec la mauvaise santé financière de Canal+. Voilà les thèmes de ce Nos Ciné Club 9e du nom et c'est parti.
Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve.
Et avant toute chose, on vous le rappelle, donc si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre. C'est promis, premier sujet du jour. On en a causé lors de l'émission que nous avons consacrée au film, on a cru un peu halluciner sur le coup, mais non, il semblerait bien que Solo, le dernier né de l'univers Star Wars, ait, outre son scénario faiblard, sa production catastrophique et son casting cuit à l'eau, un autre problème, peut-être même le pire d'entre eux, il est difficile à voir. Littéralement, la photo de Bradford Young, volontairement sombre, a parfois bien du mal à passer dans les salles où l'équipement a un peu de mal à suivre. D'ailleurs, ce sont plutôt les exploitants, les fautifs, non, est-ce qu'il est temps d'une grande remise en question? Je me tourne vers Julien, qui était le porteur de cette question dans cette note. L'assemblée, Julien, ouais, qu'est-ce que tu en penses?
Ça t'apprendra
à ouvrir ta grande gueule. Et voilà, alors c'est pour toi ce petit bébé.
Non, mais je pense qu'il y a un problème et qu'il y a un problème en fait qui a été soulevé en fait assez récemment. C'est-à-dire que c'est une remontrance qu'on a vu évoquer assez fréquemment, ça, cette photo assez sombre de Solo. Et souvent en tant que handicap pour voir le film. Et c'est assez... en fait, c'est assez dingue déjà de prendre le problème comme ça. C'est-à-dire de se dire le problème vient de Solo.
Oui.
Parce que quand on est directeur de la photo, surtout sur un film comme ça, on a des règles à respecter pour que le film soit broadcast. Et que, même si on tente des choses, et manifestement Bradford Young a tenté des choses, on a un type de luminosité quand même à respecter. C'est pas un film avant-gardiste, rien du tout. Quoi. Donc le problème ne vient pas de là, il vient manifestement des salles. Là où c'est intéressant, c'est que ça a soulevé en fait cette grande problématique qui est l'équipe, enfin le rôle des exploitants là-dedans et la problématique de l'exploitation des films en DCP et en numérique. Le problème de la diffusion en salle, elle est très vieille. On se souvient notamment que Kubrick lui-même, il envoyait des gens en fait vérifier l'équipement des salles pour qu'ils soient à la hauteur. Le THX de George Lucas est né aussi de cette envie d'avoir un suivi de qualité en fait sur les films que l'on avait. Et on pourrait croire que le numérique, comme tout le monde possède le même matériel natif en fait, qu'il n'y a pas normalement de déperdition qui peut être liée à la copie qui est fatigué, qui peut être lié à l'usure de la copie, au tirage, qui peut être un peu dégueulasse,
qui est détaché des problèmes mécaniques.
Voilà, c'est ça. On pourrait se dire, normalement, en numérique, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les exploitants ont été dernièrement un peu plus laissés tranquilles là-dessus, si ce n'est pour le relief qui exacerbe en fait toutes ces problématiques-là. Parce qu'il il faut savoir que quand on projette en numérique, il y a beaucoup, beaucoup de soucis en fait, qui font jour, notamment l'usure des lampes. Il y a encore besoin de lampes pour projeter les films aujourd'hui, évidemment. Et ces lampes qui sont très puissantes, qui devraient être normalement très puissantes, perdent très rapidement en fait, en luminosité au fur et à mesure qu'elles sont exploitées. Donc si elles ne sont pas changées régulièrement par l'exploitant, ça a un effet sur la qualité en fait, de la projection du film que l'on est en train de voir. Et c'est intéressant en fait, qu'un film comme Solo le fasse ressortir en fait aujourd'hui. Encore une fois, c'est une problématique qui est arrivée sur le relief Et mais il y avait plein d'autres soucis en fait sur le relief qui, disons, faisait un voile en fait sur ce.
Vous avez passé ça un peu voilà, sur plan. Ça.
Alors que là, on le voit, c'est voilà, il y a un vrai souci là-dessus. Oui, je pense qu'il y aurait un vrai besoin que les exploitants fassent en gros leur travail. Je pense aussi qu'il y a un autre souci, c'est que c'est la disparition en fait d'un métier qui est le métier de projectionniste. C'est-à-dire que l'automatisation en fait permise aujourd'hui par les technologies numériques ont fait que il y a de moins en moins de projectionnistes pour de plus en plus de salles. Enfin, en tout cas, il y a un projectionniste pour une quantité faramineuse de salles. Donc forcément, comme il n'a pas besoin et personne n'a besoin de vérifier la copie, de mettre les amorces, etc. Ben il y a un métier, il y a un savoir faire qui s'est perdu, qui n'a pas été remplacé, et on se retrouve avec des aberrations comme ça qui sont sur un énorme blockbuster encore une fois qui a été visé à de multiples reprises, vérifié, et en plus sur lequel, quoi qu'on pense de la qualité du film et de Solo, hein, il y a des cadors qui travaillent sur des films pareils, c'est capté avec des super caméras qui ont des super capteurs, etc. Ben on se retrouve avec un film qui est super mal exploité et on jette du coup la faute sur le film.
Alors, David, juste sur la disparition du métier de projectionniste, enfin, juste pour préciser, c'est ce qui se passe, c'est effectivement grâce à l'automatisation et en gros la facilité qu'il y a maintenant à opérer la diffusion des films avec les DCP. En fait, c'est les propriétaires de salles ou les réseaux de salles qui en abusent, en fait, en demandant aux caissiers de tenir la billetterie, de lancer le DCP, etc. Donc, c'est pas la faute des gens qui travaillent dans les cinémas souvent, mais d'une manière d'optimiser à fond le personnel dans ces salles qui derrière se retrouve un peu débordé pour
il y a parfois plein de projectionnistes dans un multiplex en fait.
Ouais, voilà, exactement.
Il fait toutes les salles. Moi ça m'est arrivé, je sais plus si c'était sur le Disney Vaiana, parce que je cherchais à râler. Déjà commencer par ça quoi. Les gens ne se plaignent pas lorsque la projection n'est pas à la hauteur.
Ou ils se plaignent sur Internet après.
Ou ils se plaignent sur Internet. Il faut le faire directement. Il ne faut pas hésiter à la cinquième minute du film à sortir de la salle et à aller pousser une gueulante. Si suffisamment de personnes le faisaient, peut-être que les exploitants commenceraient
à... Julien Dupuis le fait visiblement parce qu'il lève le doigt. Voilà.
Mais le nombre de fois où je me suis fait rembourser mon billet...
Bon plan, on
va voir plein de films gratos.
Je considère que ça fait avancer les choses parce que ça rappelle à ces gens-là qu'ils me doivent un service. J'ai payé pour ça. Après, il faut être au courant.
Dire, c'est qu'il y a des gens, ils savent même pas que tout simplement l'image, elle est. Comment ils sont... Il y en a qui sont même, je dirais que la majeure partie du grand public, parce que là, on parle quand même à des gens qui vont beaucoup au cinéma, donc qui ont une certaine idée de la qualité de l'image. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont au cinéma qui se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de regarder, c'est dégueulasse. Enfin, et que c'est soit trop sombre, soit trop flou, soit trop pixelisé.
Sur ça, j'avais deux trucs à ajouter. C'est que déjà, on en a parlé dans l'épisode sur Solo, le problème de luminosité, on l'a remarqué à Cannes, donc il y a aussi des projections qui sont censées être opérées
par des très bons professionnels.
Et donc moi quand même ça me fait poser des questions quand même sur la photo, et j'ai regardé, je constate ça même dans les trailers sur internet en fait, à vrai dire, moi sur la luminosité j'ai quand même des trucs spécifiquement sur Solo, donc ça me pose des questions.
Mais je crois que c'est assez volontaire
qui a un aspect volontaire de travail
sur le sombre,
voilà, qui pour moi et visuellement je suis daltonien et tout,
mais bon, ceux qui l'ont vu à Cannes effectivement avaient des choses à redire, mais ceux qui l'ont vu à Paris par contre tu trouveras pas de ces commentaires là, donc je sais pas ce qui s'est passé
entre les deux projections. Il y a des gens en réponse
à la projection de presse parisienne,
d'accord, parce que j'allais dire, parce que la projection en salle,
les projections publiques attirent ce genre de commentaires,
parce que souvent on se retrouve avec des lampes abîmées, enfin ou en tout cas un peu usées. Mais moi je l'ai vu en projection de presse comme Rafik, et j'avais pas non plus ce souci là et le problème de Rafik en fait sur la volonté en fait de râler, c'est pareil en fait, on se retrouve à accuser le film et pas les qualités de projection. Il y a un truc qui est aberrant par exemple, c'est que dans le circuit de salle MK2, il y a eu quand il y a eu l'explosion du relief, il y a eu une association en fait qui s'est créée contre le relief, pour aller contre le relief. Il se trouve que c'était les usagers en fait des salles MK2. Or, il se trouve que les salles MK2 avaient un système 3D qui était déficient, qui ne fonctionnait pas, avec des lunettes actives qui faisaient perdre énormément de luminosité, avec des lunettes actives qui étaient vraiment handicapantes.
Vraiment l'impression de voir un film avec des lunettes de soleil.
Mais les gens ne se sont pas retournés en fait contre le réseau de salles MK2, ils se sont retournés contre les films en relief.
Sachant que bien sûr les directeurs de salles tenteront aussi de vous embrouiller, de se foutre de votre gueule. Ça m'est arrivé avec notre collègue Arnaud Bordas, où la projection en 3D d'un film, on est allé se plaindre parce que donc c'était 3 diaphs en dessous, quoi. Et on s'est vu répondre, on peut pas augmenter la lampe trop fort, sinon ça fait brûler la copie. Et donc on leur a répondu qu'effectivement en 3D numérique, les copies qui brûlent, c'était quand même un problème récurrent.
C'est vraiment très chaud.
Mais pardon. Il y a c'est pas un problème récent, il y a toujours eu ces problèmes de lampes. On a eu une salle qui était à la place d'Italie pendant longtemps, qui était le plus grand écran à Paris. Donc effectivement l'écran était magnifique, sauf que c'était une lampe qui avait été conçue pour, je sais pas, pour la vidéoprojection dans un appartement, quoi, si tu veux. Et toutes les scènes, c'était des scènes de nuit, quoi. Et pendant des années, les spectateurs ne s'en plaignaient pas. Les projectionnistes eux-mêmes, vous allez sur des forums sur internet, vous tombez sur des projectionnistes qui rappellent tout le temps, qui passent leur temps à gueuler contre leur hiérarchie pour demander du matériel qu'on ne leur donne pas, quoi.
Mais après il n'y a pas que des problèmes de lampes, hein. Il y a aussi des histoires d'écran, tout simplement parce qu'il y a des écrans différents. Alors j'ai peur de dire une bêtise parce que je ne suis pas très calée non plus en technique, mais si je me souviens bien, dans les réseaux GC par exemple, les écrans sur lesquels c'est projeté, ce qu'on appelle des écrans argent, enfin en gros c'est pas la même projection qu'un écran qui est tout à fait blanc, enfin ils n'ont pas exactement la même réception de la lumière et de la couleur, ce qui fait qu'on a, quand on va voir un film à l'UGC, on n'a pas forcément la même projection qu'un film, je sais pas moi, dans une salle d'arrêt essai ou dans un Gaumont par exemple. Oui. C'est aussi une typologie d'écran, un choix d'écran. Après c'est des histoires d'équipementier aussi, comment on s'équipe, et là aussi à ce niveau-là les équipementiers en sont conscients et cherchent toujours à faire des nouvelles, mais comme dans toutes les industries, c'est pas la question, mais à faire des nouvelles technologies. Et je vois, bah, y a Dolby qui s'y est mis évidemment, il y a Eclair qui est un des grands équipementiers du cinéma français, Eclair, et puis international d'ailleurs. Eclair, ils sont en train de développer, enfin, ils ont développé une technologie notamment qui s'appelle Eclair Color avec Imagis, exact, parce que Eclair appartient à Imagis maintenant, ils ont été rachetés.
En fait, c'est les labos de développement de pellicules qui ont fini par tous fusionner et qui se diversifient aussi sur le.
Et donc, la solution Eclair Color, c'est l'idée d'avoir une image où la couleur est clairement augmentée beaucoup plus.
C'est du HDR.
Voilà, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant. Il y a le Dolby qui fait ça aussi, mais c'est pas les mêmes, c'est pas le même prix, c'est pas la même typologie de d'équipement. Mais en soi, il y a quand même une volonté aussi, grâce au HDR, grâce aux nouvelles technologies, potentiellement d'augmenter cette luminosité. Et concrètement, si on met les deux films à côté avec une projection classique et une projection par exemple Dolby ou Eclair Color en HDR, ça saute aux yeux des gens, en fait. C'est-à-dire qu'il faut leur mettre devant le nez que clairement ils sont maltraités jusque-là pour leurs yeux, alors qu'en vrai vous pourrez avoir un résultat terriblement meilleur.
Et puis il y a un déficit d'information énorme. Nous on a la chance d'avoir un ami un dingue,
Eric Fantôme
que l'on remercie chaque jour, on prie pour lui d'ailleurs chaque jour, qui est un des grands connaisseur de toutes les technologies de projection.
C'est un gros geek.
Et un gros geek, on va dire ça
c'est
comme
un
ça.
Gros
mais
geek.
Quelqu'un aussi qui a le temps d'appeler au téléphone tous les exploitants français, de leur pourrir la vie pour savoir dans quelles conditions les films vont être projetés. Et c'est lui qui ensuite nous dispatche sur telle ou telle salle en France pour aller voir tel ou tel film.
Il y a beaucoup d'amis dans le système d'exploitants.
Mais il y a effectivement ce que tu soulignes là, ça relève aussi d'une forme d'injustice par rapport au fait que tout le monde va payer le même prix, mais tout le monde ne va pas voir le même film. Et ça, c'est hélas pas nouveau. Moi, je l'avais vécu avec un autre film qui bénéficie d'une photo très particulière à faible contraste, qui était Seven.
Oui.
J'avais eu la chance à l'époque, parce que les gens du cinéphage étaient copains avec ceux de Metropolitan, on avait fait partie des premières personnes à voir le film au monde, et c'est dans une copie qui avait été personnellement supervisée par Fincher et par Darius Kondji, qui était stupéfiante en termes de rendu, de texture, c'était incroyable, quoi. Et ensuite je suis retourné le voir avec des amis en salle, et même si le film a eu un impact réel sur eux, moi j'avais vraiment l'impression qu'il s'était passé quelque chose, quoi. Oui. Tout d'un coup toutes ces textures là étaient devenues des espèces d'aplats de couleurs très sombres, quoi.
Oui.
Et après renseignement, de m'apercevoir qu'il y avait en France uniquement deux copies qui avaient bénéficié de cette supervision-là, qui étaient toutes les deux à Paris, quoi. Mais ça veut dire que l'essentiel
du
public français.
Même le tirage, je crois. C'était le tirage, en fait, des copies.
Tirage à faible contraste, voilà, qui était un tirage effectivement très délicat,
qui coûtait cher, et qui coûtait une fortune.
Et qui prenait du temps, et qui était compliqué. On pouvait se planter, il fallait tout recommencer, tout ça. Bon, je veux bien. Mais en attendant, le résultat, c'est que la plupart des spectateurs n'étaient pas à même niveau, quoi. Si tu allais voir le film à l'UGC Normandie, sans t'en rendre compte, t'avais plus de chances que celui qui allait voir dans la salle à côté, qui payait le même tarif et qui ne voyait pas le même film.
Et c'est une préoccupation constante, encore une fois, des cinéastes. C'est-à-dire que pour Michael Bay, dont on pense ce qu'on veut, mais qui est un grand technicien, quand il sort Transformers 3, je me souviens qu'il avait fait une lettre aux exploitants, longue comme mon bras, quoi, et dans laquelle il expliquait point par point comment il fallait régler les projecteurs pour offrir la meilleure expérience en fait
de Transformers 3.
Voilà, aux spectateurs de Transformers 3. Ouais.
Et c'est une question qui se pose d'autant plus à un moment où justement les exploitants, en particulier en France, essayent de sacraliser la salle et d'avoir tout un discours sur face à Netflix et compagnie. On en a parlé dans des précédents épisodes du No Ciné Club. Voilà, donc il faut aussi le mériter, ce caractère sacré de la salle, et ça passe par payer des projectionnistes.
Et informer
les gens. Enfin, c'est quand même scandaleux qu'au bout de un siècle, on ne sache toujours pas à quel type d'écran on va avoir affaire avant de rentrer dans la salle. Quand tu vas voir un film dans un multiplex, tu ne sais même pas dans quelle salle tu vas le voir la plupart du temps. Ça peut être la méga salle qui vient d'être refaite avec un écran gigantesque ou l'espèce de truc dans un garage pourri là avec la Renault 5 garée à côté. Et tu
mets la, et y a ça, rien,
ça sent bien.
Voilà, c'est un Renault 5. Bon,
il y a rien nulle part. Il y a rien nulle part qui t'indique sur aucun site, tu n'as les conditions techniques, la taille de l'écran, le type de projecteur. Alors oui, effectivement, c'est des termes chiants qui vont faire peur à la plupart des gens.
Voilà, mais ça, ce que je veux dire, au-delà de voir tout simplement les détails techniques de chaque salle, je pense que clairement, quelqu'un qui va au cinéma deux fois l'an s'en tape prodigieusement du détail. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que même sans avoir ça, c'est que tout simplement, tout le monde devrait être à même niveau. Mmh. C'est même pas la question de faudrait savoir dans quelle salle on va. C'est que toutes les salles devraient être au même niveau et avoir ce même niveau d'exigence, de qualité, et que chacun ait le droit à la meilleure version possible du film.
Pourrait y avoir au moins une forme de label. Non, mais comme dans les restaurants qui peuvent dire que c'est fait maison.
Filmé maison.
Voilà.
Non, mais projeté
dans des bonnes conditions.
Il y a des tentatives, c'est-à-dire qu'il y a des associations françaises tout à fait recommandées qui mettent en place en fait des trucs de calibrage en fait pour avoir la meilleure expérience de salle possible, mais il n'y a aucune obligation, donc c'est à ma connaissance c'est peu voire pas du tout suivi quoi.
Après vraiment je pense que sur ce film là en particulier, moi je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites et sur le fait qu'il faut se plaindre quand il y a un problème de projection, parce que clairement les gens se bougent pas assez, en tout cas en France. Pour ce film là en particulier, comme disait David, on l'a vu normalement dans les meilleures conditions possibles à Cannes, l'équipe était là, etc. Et on n'a rien eu après, tu vois, ils sont pas venus nous voir en disant désolé les gars, on a merdé, on a eu un problème, c'était sous ex et tout, et surtout qu'on connaît, on commence quand même un peu à connaître Bradford Young est connu pour ça, et moi je pense vraiment que sur ce film là il a juste poussé un peu trop loin le bouchon quoi. Mais on sait qu'il fait tout le temps il est connu pour ça,
il ne s'en cache pas d'ailleurs,
voilà, et parfois ça rend très bien. A Most Violent Year, moi j'avais trouvé que ça rendait très bien. Il y a des films sur lesquels c'est un peu dérangeant, et là en particulier c'était, personnellement moi j'ai trouvé ça très dérangeant, mais je suis pas sûre que ça relevait de l'accident ou d'un problème de projo quoi. Après ce qui est marrant, c'est que pour le coup aux États-Unis il y a le problème inverse que celui que vous décrivez, qui est que les gens se plaignent un peu trop parfois, et notamment on a eu de plusieurs incidents récemment avec vous vous souvenez avec le précédent Star Wars, avec cette fameuse scène silencieuse qui est prévue pour être silencieuse, et où en fait les gens se plaignaient après justement aller dans les salles en disant non mais c'est pas possible, il y a eu un bug, à un moment il y avait plus de son, et à tel point qu'il y a un cinéma qui avait mis une annonce quoi en disant à un moment il y a une scène silencieuse, on vous prévient, c'est normal.
C'est normal.
Après les gens avaient râlé parce que du coup ils se faisaient spoiler, enfin bref c'était tout un bordel quoi. Et on avait eu le même problème avec les films de Dolan où c'était le son était travaillé d'une manière assez particulière, et en fait les gens pensaient que c'était un problème quoi dans Interstellar, parce qu'il y avait des dialogues qui étaient un peu étouffés par le son, les gens pensaient que c'était un bug. Donc pareil, petit affichage sur la porte de la salle de cinéma pour dire c'est normal, le son est présenté de cette manière parce que monsieur Nolan a décidé de faire comme ça. Dunkerque, on avait le même problème avec des gens qui disaient que c'était juste trop fort et que c'était anormal. Mais encore une fois, et on peut aimer ou pas, et on peut avoir mal aux oreilles ou pas, mais c'était voulu et c'était vraiment une volonté de sa part de faire ça. Et donc là, Bah après, peut-être voilà, que c'était encrassé aussi à Cannes quand on l'a vu. Et que, si vous, à la Projo Presse de Paris, vous n'avez pas eu ce problème, bah, peut-être qu'on n'a vraiment eu pas de chance. Quoi. Mais comme disait David, même sur les trailers, en fait, on voit qu'il a juste vraiment poussé la luminosité.
Il était encrassé quand même. Hein, mais je parle du film, en fait. Oui. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il était meilleur à Cannes. Mais...
Ça, c'est une autre, question.
C'est une autre question.
T'as pas les avis.
Et c'est pour ça que moi, justement, sur le côté expérience sociale de la salle, je voulais parler d'une anecdote qui s'était justement passée à Cannes l'année dernière. En fait, c'était pour la projection de Dogja, la première projection le matin dans le Grand Théâtre Lumière. Et sur la question de qui va réagir ou pas, on est à Cannes, donc dans la très grande salle avec 2000 personnes qui, a priori, ont un peu l'habitude d'aller au cinéma. Et c'était une séance un petit peu chaude parce qu'il y avait la polémique Netflix. Le logo Netflix est un peu sifflé par une partie de la salle. Et en fait, le film commence avec un bon quart de l'écran en haut qui était masqué par un élément de décor qui n'avait pas été relevé. Et en fait, du coup...
On n'avait pas la tête des gens.
Donc, on voyait que c'était coupé en haut, vraiment un gros bout de l'image. Et du coup, voilà, il commençait à y avoir un peu des soubresauts dans la salle, des gens... Alors moi, j'étais bloqué en plein milieu d'une rangée, donc je ne pouvais pas courir dans la salle de projection comme j'aurais aimé le faire. mais du coup, il y avait ce truc où il y a eu tout un moment de flottement
tout de suite, quoi.
Entre des gens qui disaient mais c'est pas possible, il faut arrêter le film, il faut le relancer, etc. Ouais. Et d'autres qui disaient arrêtez de faire du bruit, le film a commencé. Donc il y a ce truc.
Il y a eu un moment de flottement au début où les gens se demandaient si c'était fait exprès ou pas que ça soit filmé de cette façon-là.
Oui,
c'était pareil avec Mountains May Depart de Jia Zhangke où la première scène était complètement saturée et au début les gens n'osaient pas trop dire quelque chose parce qu'on savait pas si c'était voulu ou pas et finalement ils ont arrêté la projo et ils ont relancé le film.
Et en fait c'était pas
mais pour le coup la dans la salle était moins pardon,
c'est quand on plonge un groupe de personnes dans l'obscurité, les gens perdent leurs moyens et ça on ne le dit pas assez.
Waouh, c'était la meilleure conclusion qu'on pouvait imaginer à ce petit débat. Très bien, le Nos Ciné Club continue, c'est désormais une tradition. Pour notre prochain sujet, on joue. Show me what you got. Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Petit questionnaire autour de Pixar. Un avant-goût de notre sujet suivant. 5 questions. Le premier qui trouve à gagner. On lance le chrono pour faire plus vrai. Voilà, c'est très bien. Première question. Quel est le premier nom de Pixar à l'époque où l'entreprise appartenait à Lucasfilm?
Lucasfilm Computer Division.
Non. Presque.
Lucasfilm Computer Division Animated ?
Non, il manque un mot.
Lucasfilm Division Computer.
Non, alors Computer Division, il y a ça, mais il manque un mot.
Électronique ?
Non.
Alors, je ne sais plus.
Graphics. Computer Graphics Division. Eh oui, monsieur.
C'est dur.
Tout le monde connaît le célèbre logo animé de Pixar avec sa lampe qui rebondit, mais savez-vous comment s'appelle cette lampe ?
Luxo Junior,
bien sûr. Une des plus célèbres anecdotes au sujet de Pixar, c'est que lors d'un dîner entre Pete Docter, John Lasseter, Joe Rant et Andrew Stanton, les 4 cerveaux de Pixar ont jeté les bases de 4 films d'un coup. Savez-vous lesquels ?
Wall-E, Monstres et Compagnie.
Oui.
Les Indestructibles.
Nemo.
Oui.
Et
Vice Versa.
Non.
Toy Story.
Non.
Mille et une pattes.
Mille et une pattes. Bravo Rafik. Le requin dans Nemo, justement, s'appelle Bruce. Savez-vous, en hommage à qui ?
Un hommage à l'avocat de Spielberg.
Ah non, pas exactement.
Ben si, mais du requin dans de la mer, donc il y avait le nom de l'avocat.
Qui s'appelait Bruce comme l'avocat de Spielberg.
Mais en vrai,
ils ont appelé le requin à cause du requin de Spielberg, pas de l'avocat. Quel est le premier film Pixar à avoir été nommé pour l'Oscar du meilleur film ?
Alors, du long métrage ou du court ?
Long métrage classique. Pas du court, non. Du long métrage.
Bah, c'est Toy Story.
Oui, Toy Story.
Non.
Ah. Mille et une pattes.
Non.
Toy Story 3.
Toy Story
2.
C'est Toy Story 2.
Le monde de Nemo.
Non. C'est là-haut.
Ah ouais.
C'était seulement le deuxième film d'animation nommé pour l'Oscar du meilleur film, le premier étant La Belle et la Bête.
D'accord.
Et on apprend des trucs dans cette émission. Et enfin, parfaite transition pour notre.
J'ai pas du tout compris la question.
Non,
j'ai vu le meilleur film. Non.
On est tous nuls.
Parfaite transition pour notre prochain sujet. Quel acteur a prêté sa voix à un personnage dans l'intégralité des films Pixar ?
Alors, ça c'est dur.
Il est dans tous les films Pixar.
Il est connu ?
C'est un acteur ou c'est
pas
un...
très connu. C'est un comédien.
Non.
Il est connu pour un point. Ne triche pas avec ton
Parce
téléphone.
Il s'appelle Brian.
Non, il s'appelle pas. Alors, Brian.
J'ai une proposition, mais vas-y. Un peu au perché. Wilhelm, puisque non. Le cri de Wilhelm est dans tous les Pixar.
Non.
Il n'est plus dans les Star Wars.
C'est notamment celui qui fait la voix du cochon dans Toy Story.
Ah, oui, bien sûr. Ouais,
il est connu pour un rôle dans une série télé américaine aux États-Unis. Il jouait dans Cheers.
Ça va très bien.
C'est John Ratzenberger.
Ok.
Voilà.
Ah bon, cool. Non, mais d'accord.
Très bien.
Non, ben voilà.
On n'a pas du tout aimé cette question.
Comme ça, vous le savez. C'est ça, hein. J'ai bien vérifié.
On n'a pas une autre qu'on parle pas là-dessus quand même.
J'en ai une que j'ai enlevée parce qu'elle pouvait être prise à double sens. C'est quel élément est dans quasiment tous les films Pixar ?
Le ballon, le A113.
Alors voilà, il y avait le A113.
Le Pizza Planet.
Mais il y a le camion Pizza Planet aussi. Donc je me suis dit qu'il y avait plusieurs réponses. Voilà. Vous savez tout des coulisses de fabrication de ce quiz passionnante. Ok. Je crois que Quentin va me dire de me fermer ma gueule. On peut continuer, Quentin. Et l'on est clairement impatient ici chez nos ciné, impatient de retrouver les Indestructibles, donc qui reviennent au cinéma toujours chez Pixar. On en parlait, 14 ans après son premier chef-d'œuvre, Brad Bird revient pour nous raconter la suite des aventures de la famille Parr. On a surtout hâte d'en savoir plus sur Jack-Jack, enfin en tout cas moi, parce que c'est le meilleur personnage de tous les temps. Mais on en parlera dans une prochaine émission quand on l'aura vu. Avant ça, on va parler doublage, car on a découvert, comme tout le monde, quels acteurs français s'étaient chargés de prendre le relais de Craig T. Nelson, Holly Hunter et Samuel Jackson pour la version française. On n'a pas été déçus, hein, parce qu'il y a Gérard Lanvin, Louane, Amanda Lear. Que du lourd.
Amanda Lear, elle était déjà dans le premier.
Ah ben oui, je sais bien.
Elle correspond bien au personnage.
Bah voilà, vous commencez le débat avant que j'ai posé ma question. Vous faites chier aussi. D'où cette question. Que faire de la VF dans l'animation ? Est-ce que ça ne gâche pas un peu le plaisir ou est-ce qu'on peut passer outre ? Anaïs, tiens. Hop, je te commence.
J'ai préparé une liste pour illustrer
ton propos.
Ma réponse. Donc, le monde de Dory en VO, on a Hélène DeGeneres, Diane Keaton, Idris Elba, Dominic West, Bill Hader, Sigourney Weaver, Willem Dafoe, Alison Janney. Et en VF, on a Franck Dubosc, Enjoy Phoenix, Kev Adams et Claire Chazal. Donc, je pense que
tout est dit.
Voilà, je crois que tout est dit. Non, moi, franchement, effectivement, c'est moins dérangeant la VF que sur d'autres films. Mais moi, personnellement, je préfère toujours la VO. Je trouve qu'on perd beaucoup d'humour à deux niveaux, propre à Pixar, avec la traduction, parce que forcément, c'est parfois assez dur à traduire. Et il y a juste des caméos beaucoup plus cool de personnalités américaines qui, personnellement, moi, me font un peu plus rêver que les personnalités françaises qui font le doublage, quoi.
On peut éventuellement dire qu'il n'y a pas le même budget voix sur la version originale que sur les versions doublées. Ça joue forcément sur
même si le cachet de Claire Chazal de
enfin, voilà, ce que tu as cité comme liste, c'est effectivement impressionnant, mais c'était encore pire sur les DreamWorks qui fonctionnaient quasi exclusivement sur une série de superstars dans leur casting voix, quoi, que tu perdais dans la VF. Mais je ne sais pas qui est parent autour de la table.
Moi.
Voilà, donc on est trois.
Donc
on est un peu forcé effectivement de passer
de subir de la VF.
Et globalement, sur l'animation, moi j'ai pas trop de réserve. Hein. Ça va quand même. Je sais qu'à l'époque du Laserdisc.
J'aime bien quand tu dis ça. J'adore.
Ouais, parce que personne ne connaît cette époque-là. J'achetais des disques américains, mais je chroniquais aussi parfois les disques français. Donc je pouvais vraiment systématiquement.
Tu disais les disques, parce que c'était comme des 33 tours.
Comparer les mixages. Et les mixages sur les films live étaient vraiment, je trouve, catastrophiques par rapport à ce qui était fait sur l'animation. Il y avait un équilibre des voix sur les films animés qui souvent étaient perdus dans les films, les films live. Quoi.
Alors, le truc aussi, c'est que le film live a une VI, en fait. C'est une version internationale sur laquelle on vient plaquer en fait, les voix derrière. Et cette VI, forcément, elle perd des pistes sonores qui sont liées aux voix, et notamment à la capture en direct en fait, des voix. Donc, dans ce sens-là, effectivement, c'est moins grave, on va dire, la VF que la VO sur les films d'animation.
Oui.
Là où moi je trouve que c'est plus grave par contre, c'est que les voix en fait en VO dans les films d'animation, c'est pas simplement des voix en fait. Ouais. C'est que les animateurs, ils vont calquer
sur quelqu'un.
Une grosse partie en fait de leur animation sur la voix et sur l'interprétation de ces comédiens qui sont depuis quelques années en plus systématiquement filmés et dont les mimiques vont aussi incarner, nourrir en fait l'interprétation du personnage animé.
Quitte à changer d'acteur en cours de route, ça s'est déjà vu, et notamment des grands acteurs qui se sont vus un peu sortis de... Il y avait eu le cas dans un film Pixar, je n'ai plus l'anecdote exacte en tête, mais où un comédien avait été changé en cours de route parce qu'il s'était dit, ah, finalement, il colle pas tant que ça au personnage.
Non, mais après, c'est un patchwork, l'animation, mais enfin, là, tu peux pas... Tu peux pas minimiser en fait l'apport en fait de la VO sur les films d'animation. C'est-à-dire que même s'il y a pour les cinéphiles en fait, il y a un déchirement en fait de ne pas entendre la vraie voix de l'acteur quand tu vois le comédien face à toi dans un film tourné en live. Bah dans l'animation, il y a quand même ce déchirement là qui est présent. Et en plus, le truc, c'est que je pense quand même qu'il y a une tradition en fait du doublage d'animation aux États-Unis qui remonte au cartoon en fait. Oui. Qu'on a quasiment pas en fait en France. On l'a un tout petit peu, on l'a eu un tout petit peu avec Carrel ou des gens comme ça, mais on est très loin du travail qui était fait sur les Chuck Jones, quoi, par exemple, où il y a un vrai travail sur la langue,
et
sur la
Pied
façon,
plus.
Sur
qu'est-ce qu'il y a avec Claude Pieplu, qu'est-ce que vous faites de Claude Pieplu,
mais ça reste quand même assez minime par rapport.
Qu'est-ce que Claude Pieplu, voilà. Non mais oh.
Après, je trouve que c'est un peu un faux procès qu'on fait à l'animation. Enfin, en soi, c'est très logique. D'une part, les parents qui sont autour de la table viennent de témoigner. En soi, c'est que c'est très logique qu'on fasse de la VF parce qu'il faut bien que les enfants comprennent. Je suis désolée, à 4 ans, on lit pas encore très très bien les sous-titres.
Ma fille,
elle est surdouée, mais tous les enfants n'en sont pas là. Mais au-delà de ça, Anaïs, tu faisais la liste, tu comparais la liste. Alors c'est vrai que d'un seul coup, on se prend une claque, ça fait un peu mal. Mais en soi,
Enjoy Phoenix,
ça fait un peu bobo. Mais en soi, faut aussi penser que tout simplement, alors pour les Pixar, c'est pas toujours justifié, mais pour d'autres films d'animation où c'est un petit peu plus dur d'exister au cinéma, parce qu'ils n'ont pas cette esthétique Pixar, parce qu'ils n'ont pas la machine marketing Pixar derrière, avoir un casting de voix connu, mais connu du grand public, c'est-à-dire des gens qui sont appréciés du grand public et qui ne sont pas forcément les gens que nous, on apprécie. Donc ça peut être des gens de la télé-réalité, ça peut être des gens qui viennent du 20h, ça peut être des gens qui viennent de Plus belle la vie, j'en ai rien à faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, c'est aussi une manière d'atteindre ces publics-là et de faire venir les gens au cinéma. Oui. Donc pour moi, en soi, si le mec fait un doublage correct derrière... Qu'il n'est pas complètement off tempo. Franchement, pour moi, je m'en fous d'une certaine façon d'où vient la voix. Ce qui compte, c'est qu'il y a un rythme. Ce qui compte, c'est que les blagues, elles tiennent, que l'histoire, elles tiennent, et que finalement, la voix corresponde assez bien au personnage. Donc en soi, je trouve que le procès de la VF est pas très juste.
C'est pas un procès, c'est juste une préférence personnelle.
C'est pas que toi, je dis ça, c'est tout le monde, parce que t'avais cité des noms. Mais en soi, je trouve que c'est pas.
C'est un pied-aller, c'est une nécessité économique. Évidemment que moi, je les vois en VF, les films avec mes gamins, etc. quoi. Après, le truc aussi, c'est l'implication des cinéastes. C'est-à-dire que normalement, les cinéastes, ils devraient aussi avoir leur mot à dire en fait là-dessus. Et c'était le cas.
Tout le monde n'est pas Wes Anderson.
Mais tout le monde, surtout, n'est pas même Zemeckis. Par exemple, Zemeckis, il a choisi Luc Hamet pour faire la voix de Roger Rabbit. Et il avait choisi la voix de ses personnages principaux dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, dans la plupart en fait des pays, des gros pays en fait où son film allait être exploité.
La VF de Roger Rabbit, elle est super.
Et ensuite c'est assez rare, et des fois t'as une rupture en fait entre les deux. Tu parlais des films hors Pixar qui peuvent avoir du mal à atteindre un public. Moi, je me souviens que Pathé, ils avaient mis le paquet sur Chicken Run et ils avaient débauché énormément de pognon avec Depardieu et Josiane Balasco pour faire Chicken Run. Mais c'était terrible en fait cette VF de Chicken Run, parce que tu sentais qu'ils en avaient rien à foutre quoi. Et d'ailleurs, il y avait un bonus qui avait été tourné sur la VF on l'a fait parce que un tel de Pathé est notre ami. c'était aberrant quoi. Ils n'avaient absolument rien à foutre. Et en plus, les VF, je termine là-dessus, mais les VF en plus en France sont souvent faites à la va-vite, où c'est un travail conséquent aussi dans les films d'animation.
On nous cite quand même dans les commentaires, notamment Pierre et Sam Wajak nous citent des exemples de VF réussis selon eux. Alors à vous de nous dire si vous êtes d'accord. Ils nous parlent notamment des VF de Ghibli. Les VF de Ghibli sont cités en exemple.
C'est autre
et
chose.
Madagascar.
Alors, au Ghibli,
Madagascar, c'est très vrai.
Sur Ghibli, c'est pas pareil sur l'animation japonaise. Parce
qu'on comprend rien au japonais.
Non, c'est que l'animation japonaise, ont cette spécificité, c'est que les voix sont enregistrées après que l'animation a été faite. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, même quand on voit les films japonais, les films d'animation japonais en VO, qu'il y a comme une espèce de décalage entre l'animation et la voix, parce que la voix est plaquée dessus. C'est une réalité de fabrication tradition, cette spécificité. Voilà, ils conduisaient à gauche.
Et puis il y a eu une tradition
ils ont que ça.
Il y a aussi le fait qu'une partie du public visé est très attentif aux voix qui sont choisies. C'est-à-dire que dès les années 90, les magazines spécialisés dans l'anime japonaise, etc., notaient les voix des comédiens français qui allaient être engagés, etc. Une VF comme celle de Porco Rosso a bénéficié d'infiniment plus de soins avec Jean Reno, mais elle est exceptionnelle,
elle est
cette
incroyable.
Version.
Elle est super. Moi, je la préfère.
J'adore.
Je connaissais la VO par cœur. Je me suis dit, mais c'est quasiment la même chose. Jean Reno
est génial.
Ça leur avait pris des mois pour faire. La question du budget. Il y a un autre problème dont on n'a pas parlé, qui pour moi me scandalise en tant que cinéphile, justement. M'a toujours beaucoup plus scandalisé. Ça a été la décision de Disney pendant très longtemps de refaire les versions françaises régulièrement.
Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ah, ça, c'est horrible.
Et donc,
je reconnais pas
un dessin animé
quoi.
Comme Blanche-Neige.
Je ne reconnais pas ma petite sirène.
Qui date de 1939. Tu t'écoutes la version originale de Blanche-Neige. Tu as un film de 1939 avec les intonations de cette époque-là. Et en version française, tous les 10 ans, c'est refait. Tu te retrouves avec une.
Ah, mais
avec,
c'est pour ça.
Mais c'est pas les mêmes chansons. Enfin, les chansons sont modifiées. C'est pas la même chose. C'est désagréable.
Les chansons sont modifiées.
Parce que je les ai revus du coup de fait il n'y a pas longtemps.
C'était parce que en partie
quand elle chante Maréchal Nouveau là c'est chaud. Mais bon,
c'était en partie parce que quand Disney ressortait des versions restaurées en Dolby Stéréo etc. Ouais. Ils le faisaient à partir des éléments originaux qu'ils avaient pour la version originale, mais du coup pour la version française qui elle avait été mixée en mono tu pouvais pas faire grand chose avec, donc ils refaisaient une version française pour pouvoir faire du 5.1 ou je ne sais quoi. Et puis tout d'un coup, Blanche-Neige, elle avait un accent wesh de banlieue, tu sais pas pourquoi, disons, mais qu'est-ce que ça fout là dans un film de 1939?
Mais il y a une problématique générale de la VF d'ailleurs. Le truc, c'est qu'il faut savoir que la VF maintenant, en fait, ça a coûté très très cher en fait. Les acteurs de doublage ont gagné des fortunes dans les années 80, jusqu'aux années 90. C'était des comédiens qui tournaient beaucoup et qui étaient très 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 bien payés, quoi. Et la Seine-Saint-Denis a perdu beaucoup d'argent quand ces gens-là sont partis. Une des problématiques, c'est que il y en a deux, c'est que d'une part, maintenant la VF
c'était
est
une
souvent
blague sur la drogue que tu délocalisée.
Non, non, mais c'est pas parce qu'ils allaient bouffer. Enfin bref, j'ai entendu des anecdotes il y a pas longtemps là-dessus. Mais bref, je m'égare.
Okay.
Mais le truc, c'est que d'une part, elle est souvent délocalisée en Belgique. Et j'adore la Belgique. Mais souvent, si c'est délocalisé, c'est pour gagner de l'argent. Et c'est aussi pour il n'y a pas la même tessiture des voix. Alors moi, je regarde plus trop les films en VF. J'ai cette chance-là de ne plus avoir à faire ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je tombe sur une VF d'un film récent, mes bras m'en tombent, quoi. C'est rarissime, je trouve, de tomber sur une VF récente de qualité. Puis un autre souci, c'est cette peur du piratage qui fait que souvent, les acteurs en VF
découvrent le film au moment de...
C'est même pas ça, c'est qu'ils ne voient pas le film, en fait. Ah, oui. C'est-à-dire que j'avais entendu dire que c'était pour Le Seigneur des Anneaux. Ouais,
ils avaient doublé
avec juste les bouches. C'est-à-dire qu'il y avait un cache sur tout le reste de l'image et il y avait juste la bouche qui apparaissait à l'écran quand il devait doubler tel ou tel personnage.
Je crois que la version est sur le Blu-ray, édition spéciale, version bouche, dans les bonus.
C'est un métier difficile, doubleur de films. C'est clair, un sacré boulot. Il y a eu des grands acteurs. Bruce Willis dans Piège de Cristal en VF, c'est une autre dimension en fait, du film. Moi, je préfère la VO, évidemment, mais quand tu le vois en VF, ça rapporte quelque chose et tout. Retour à le futur, c'est génial en VF. Mais ça, je me demande si ce serait encore possible aujourd'hui. Mais c'est un autre débat.
Je voulais juste répondre à la question des internautes. Je suis surpris que personne n'ait cité ce titre-là, parce que pour le coup, je considère que c'est une VF de film d'animation qui écrase la version originale. C'est Cusco, l'empereur mégalo.
Ouais, non, ils ont pas le qui, Madagascar, voilà, on a comme exemple.
Qui en version française, réussi à trouver, pas simplement par les intonations, un niveau supplémentaire d'humour qu'il n'y a pas dans la VO.
C'est vrai, c'est très vrai.
Non, après, je fais juste une aparté rapide sur ce que tu disais, Julien. Tu dis que c'est des contraintes économiques, mais clairement, je fais un lien avec ce que dit Rafik aussi. Le fait que Disney refasse très régulièrement, tous les 10 ans, tous les temps de temps, des doublages, c'est aussi un moyen de rester dans l'actualité, de remettre les produits sur les rayons et de les faire revivre. En fait. Donc derrière, il y a une volonté marketing, une volonté économique qui pour moi est d'un seul coup vient en conflit avec tout simplement la qualité de ce qu'ils ont à la base, de l'œuvre à la base et l'intégrité de l'œuvre à la base. Tout ça pour des contraintes économiques. Enfin, j'ai pas envie de rentrer en mode anarchie, mais c'est juste que d'un seul coup, c'est comme
non mais c'est agaçant.
Tout à l'heure, oui, le cinéma pareil pour vous.
C'est sûr, on arrive à une époque où les réflexes gauchistes peuvent se battre pour l'intégrité de Walt Disney. Donc, comme quoi. C'est passé quelque chose en un siècle.
Ça mène à tout, le capitalisme. Il y a David Honora qui allume des feux de détresse au fond, là-bas. À moins que ce ne soit ses cheveux.
C'est moi qui avais proposé ce sujet, j'ai pas pu en passer une. C'est normal. On se moque de ma rousseur. Alors, je vais prendre cette tribune qui m'est offerte
pour pousser un coup de gueule.
Non, mais alors en fait, j'ai quelques réflexions en vrac qui recoupent un certain nombre des choses qui ont déjà été dites, parce que je crois qu'on a quand même dit pas mal de choses.
Ouais, en plus, tu vas répéter ce que les autres ont
dit. Non, je vais pas répéter, mais déjà, le fait de comparer le casting américain au casting français, en fait, parfois, finalement, c'est plutôt bon signe quand les voix françaises ne sont pas connues, parce que ça veut dire que c'est des comédiens de doublage, et ce qui peut être plutôt mieux, parce que un des biais aussi, et Pixar en fait partie, mais effectivement, enfin vous l'avez dit, pour des raisons commerciales, beaucoup du cinéma d'animation va aller chercher des Coé, des Antoine Griezmann ou je ne sais quoi pour faire des voix, et là ça devient
c'était
un petit peu n'importe
Lego
quoi.
Batman, notamment, ouais.
Bah là ça devenait vraiment stupide.
On n'avait pas Jamel sur Dinosaure, un truc comme ça.
Jamel c'est un acteur quoi. Enfin je veux dire.
Oui, mais sur le personnage en question, ça faisait vraiment tâche.
Ça faisait bizarre. Et donc déjà ça c'est un aspect, c'est que finalement la qualité du doublage va aussi être liée à l'expertise des personnes qui le font. Après, dans les films d'animation, il y a, au-delà du doublage, il y a aussi souvent j'ai l'impression une liberté un petit peu supplémentaire sur la traduction, qui notamment dans les chansons, qui permet parfois des trucs intéressants. Et j'ai cet exemple dans Le Roi Lion.
Est-ce que tu vas chanter?
Je ne vais pas chanter parce que je ne connais pas l'air, mais prends garde lion, ne te trompe pas de voix.
Prends garde lion, je ne trouve pas.
Je trouve ça extraordinaire comme traduction et comme version française.
À cause de garde lion?
Bah ouais, prends garde lion, ne te trompe pas de voix.
SNCF.
Et incroyable.
Et,
et ce genre de détails. Donc voilà, je pense qu'il y a un truc qui peut apporter quelque chose. Et un des cas aussi où je m'étais posé la question, alors c'est pas un film totalement d'animation puisque c'est de la performance capture, mais sur le Tintin
donc
de Spielberg, c'est pas de l'animation.
Ouais, tu vas me lancer là, me lance pas.
Non mais voilà, donc mais en fait on est sur l'entre-deux où à la fois il y a la performance des acteurs avec Tintin, et à la fois il y a l'aspect du fait que le personnage de Tintin en soi est logiquement s'exprime en français, et du coup ça ajoute quelque chose en fait à l'approche sur les deux versions. Moi, je trouve que les deux versions se tiennent plutôt pas mal. Ce que tu penses de, je sais pas si, par exemple, Julien qui me regarde avec des gros yeux, est-ce que tu as eu l'occasion de voir la VF,
plus, là, je suis dégoûté,
la VF du Tintin de Spielberg?
Ouais, je l'ai mais... vu avec mes enfants. D'un
bah voilà,
tu vois. Ouais. Non, il y a Vice Versa qui était une bonne VF, tu vois, récente.
Mais
ils étaient allés chercher là, c'était intéressant Vice Versa parce qu'ils étaient allés chercher plus des vrais acteurs assez connus plutôt que des têtes d'affiches,
bah, des youtubeurs
comme c'était le cas dans les Batman.
Vice Versa, c'est un cas intéressant où je dirais que les voix françaises sont plus connues en France que les acteurs américains de la version originale sont connus aux États-Unis. Ils sont, bah si quand même, Mindy Kaling est pas d'unis.
Mindy Kaling, quoi.
Mais oui, mais même Amy Poehler, elle n'est pas aussi connue que aux États-Unis que les.
Mais en fait, ouais, c'est pas forcément une question de connue. Enfin, pour moi, c'est aussi une question de. Enfin, par exemple, La Reine des Neiges. Moi, j'y suis vraiment allée pour Kristen Bell. Tu vois, enfin, ça peut paraître stupide parce que c'est juste sa voix, mais c'est une actrice que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle est très très bonne en doublage. Et du coup, ça, pour moi, ça a apporté vraiment quelque chose. Et Mindy Kaling, pareil. Enfin, je trouve qu'en fait, c'est déjà effectivement, c'est des actrices et des acteurs, mais en plus, qu'ils soient connus ou pas, ils apportent vraiment quelque chose. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'effectivement, dans les VF, où c'est des vrais acteurs de doublage et pas des gens juste célèbres, quoi, en fait, c'est là qu'on a les meilleures versions, quoi. Et effectivement, tous les exemples qui ont été donnés avec Madagascar, Cusco, etc., c'était de très, très bonnes versions.
On nous dit d'ailleurs que, Rafik, quelqu'un dans les commentaires avait signalé Cusco. C'était Didier Gustin qui faisait la voix de Cusco. Comme quoi, hein, comme quoi, comme Jean-Luc Reichmann tout à l'heure. Et on nous dit aussi qu'apparemment, sur Garfield, sur le 2, il y a eu des choses assez étonnantes. Notamment, ils n'ont pas fini le doublage, ils ont dû le terminer avec des bouts d'enregistrement pour finir la version française. Non, apparemment, ils ont bricolé la fin de la version française.
Mais c'était mais il manque de temps aussi. C'est un autre problème. C'est un autre souci des doublages aujourd'hui, c'est qu'il manque de temps. Auparavant, il fut un temps lointain que Rafik a connu comme
moi. À l'époque du Laserdisc.
À l'époque du Laserdisc, où tu avais les blockbusters qui sortaient au printemps, à l'été aux États-Unis. Et puis nous, la période des blockbusters en France, c'était en octobre. Et du coup, les mecs, ils avaient. Je me rappelle que c'était sur Waterworld. C'était un mec qui était très connu en fait dans le doublage, qui avait supervisé le doublage. Je me rappelle plus de son nom, mais qui avait supervisé le doublage du film. Et le mec, il y avait une interview de lui dans le studio, je me souviens de ça, qui était un magazine que vous n'avez pas connu. Il y a eu 6 mois de travail en fait d'adaptation et d'enregistrement des voix sur Waterworld. Et c'est vrai que la VF était excellente.
Le doubleur de Stallone, hein, qui déjà dans les années 90 faisait cette remarque-là, que sur le premier Rocky, ils avaient eu 5 mois et sur Rocky 5, ils en avaient eu 5 semaines. Enfin,
et c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack aussi qui a demandé un an, je crois. Il est sorti très tard après parce qu'ils ont.
Magnifique.
Ah ouais, incroyable. Ils avaient traduit super bien toutes les chansons.
Ils ont fait appel à des paroliers, des compositeurs français.
Les chansons étaient sublimes. Bon, on va s'arrêter là sur ce sujet parce qu'on va y passer toute la nuit. Je sens vous êtes lancé. On va enchaîner quand même avant notre prochain sujet. Évidemment, encore un petit jeu.
C'est danseur John Pepper. C'est tu vas la fermer, oui ou merde. On parle de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov.
On reste sur la thématique gauchisme. Et comme d'habitude, ce sera un jeu musical, le préféré de David Honora. J'avais envie qu'on reste dans ce merveilleux monde.
Tu nous as pas mis une VF à reconnaître.
Non, il y a l'instant VF, c'est le troisième jeu, l'instant VF.
Tu pouvais inverser.
Ça va pas ou quoi ? Il y a un conducteur dans l'émission. Il y a un conducteur
dans l'émission.
On est carré.
On va faire simple. 5 extraits de BO de films d'animation, pas que des Pixar, sinon ce serait quand même un peu trop simple. Toutes époques, comme d'habitude, le premier.
Tu vas encore nous mettre des chansons ?
Non, je mets pas de chansons. Le premier qui trouve à gagner. Premier extrait.
Robin des Bois.
Ah, c'est Robin des Bois.
Bravo, Périne.
Waouh.
C'est pas du tout Mickey.
C'est pas Mickey.
Mickey. Non, c'est pas Steamboat.
Je pensais que c'était Steamboat.
Non, c'est Robin des Bois. Deuxième extrait.
Le roi et l'oiseau.
Oui.
Chocula.
Bravo. Oh là là. Bravo, Rafik. Quel talent.
Bah, c'est c'est gros mythe.
Voilà, très bien. Quand même. J'ai cru que vous alliez pas trouver tout de suite.
Si, quand même.
Ça a été bizarre. Quatrième extrait.
C'est Ghost in
Ghost
the Shell.
In the Shell,
oh putain, vache, ils sont trop forts. La chanson n'a pas commencé. Voilà, parce que c'est là que ça commence. Très belle chanson. Voilà. Du coup, le cinquième extrait.
Plus qu'une chanson.
Monstre accompagné.
Toy Story. Bravo, Périne. Oui. Oh, David, une seule fois que tu tentes. J'ai tenté pas la bonne.
C'est Charlie Couture sur la version française.
Tout
d'ailleurs.
À fait. Et la version originale, c'est
moi.
Et la version originale.
Je suis ton ami.
Tu fais très bien, Charlie Couture.
Des voix de dessins animés, en fait.
C'est Randy Newman. D'ailleurs, il y a un superbe sketch. Merde, comment ça s'appelle? Du Saturday Night Live qui s'appelle. J'ai plus le titre des lapins au bureau Rabbit in Offices, en fait, où ils enregistrent la bande originale d'un dessin animé et t'as tous les habitués, les Randy Newman et autres qui viennent poser leur pêche, quoi. Et j'ai honte parce que je retrouve plus le truc.
Ta mission d'ici la fin de cette émission sera de retrouver ce
sketch. C'est aussi Randy Newman sur Monstre et Compagnie où j'étais vraiment
c'est vrai.
Donc un demi-point, un tiers de point. Ça pourrait être mon premier tiers de point.
Ce serait ton premier tiers de point de l'histoire du club. Je pense qu'on va te l'accorder aujourd'hui. Merci à tous d'avoir joué. On attaque notre prochain sujet. Bon nombre de cinéphiles, David Honora mis à part, n'ont qu'un intérêt très relatif pour le football. Aussi, c'est avec la même absence de passion que beaucoup ont suivi de très loin le feuilleton des droits télé de la Ligue 1, lesquels droits qui représentent une vraie manne. J'ai pas fini, Périne. Qui représentent une vraie manne en termes de revenus et de public, ont échappé pour la première fois en plus de 30 ans à Canal+, la chaîne du foot, qui se verra privée de ses habituels matchs à l'horizon 2020 si elle ne parvient pas à grappiller un peu de licence chez Mediapro, qui est le groupe espagnol qui a tout raflé. Quel rapport avec le cinéma? Eh bien, il vous aura pas échappé que Canal est un des
financiers essentiels du cinéma français que sans la cagnotte du foot, on est en droit de se demander si les choses ne vont pas tourner vinaigre pour la création cinématographique française. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Vas-y, c'est bon, Perrine, tu peux y aller.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? C'est
oui.
ça la question.
Oui.
Je ne sais pas s'il faut s'inquiéter. En tout cas, le monde du cinéma à l'heure actuelle...
Ça dépend qui on est.
Oui, voilà, ça dépend qui on est. Mais eux s'inquiètent un tout petit peu aussi. Parce que c'est pas la Ligue, enfin les droits de la Ligue 1, donc raflés par Mediapro, ce groupe espagnol racheté par les Chinois, qui a raflé donc, les droits de la Ligue 1 pour 1,15 milliard, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. Ils ont raflé une partie des lots, sachant que...
Les deux premiers
lots. Oh, plus.
Non, ils ont
raflé
3
lots. 8, non.
Non.
Enfin bon, ils ont raflé beaucoup de lots.
4 lots sur 8 ou...
Ils ont raflé beaucoup de lots et enfin, pour plus d'un milliard, une augmentation de 60% des droits, c'est vraiment bravo la LFP. Mais en soi, le fait que d'un seul coup Canal Plus se perde ces droits-là, c'est un petit peu la cerise sur le top of the cake de The Sherry qui était déjà là en fait. C'est-à-dire que depuis maintenant quelques temps, depuis quelques années maintenant, Canal Plus perd de plus en plus d'abonnés, c'est pas un secret pour personne. Même eux, ils finissent par le reconnaître. Dans les petites lignes, à chaque fois, ils finissent par le reconnaître. Ils perdent des abonnés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la perte d'abonnés ? C'est une perte de rentrée d'argent pour Canal+. Or, Canal+, comme tu l'as dit, c'est le financeur du cinéma, parce que Canal+ a des obligations. En fait, en 84, quand la chaîne s'est créée, pour avoir les films en amont, les films plus tôt que les autres chaînes, ils ont signé un accord interprofessionnel avec le cinéma français, qui est qu'ils doivent investir 12,5% de leur
chiffre d'affaires.
Ouais. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est vraiment, il y a des trucs qui rentrent dedans.
Elle fait tout ça sans note.
Hein.
Elle n'a pas de note. Elle
cite
des chiffres.
Elle en a plein là, mais elle ne la regarde
elle
pas.
Elle ne la regarde même pas.
C'est 12,5% du chiffre d'affaires dans le cinéma européen, je crois 9% pour le cinéma
français. C'est 12,5% en tout, donc 9,5% pour le cinéma français. Et le reste pour le cinéma européen, ce qui représente à peu près 110 films financés par Canal+ par an, en fait, à peu près. Donc, et tout ça est en pré-achat. Enfin, 85% de tout ça est en pré-achat. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent acheter les droits de diffusion des films. Sinon, ils peuvent être en production, en coproduction. Et donc ça, c'est des spécificités. Mais en soi, ce qui fait que comme il y a une baisse des rentrées d'argent, il y a une baisse de l'investissement derrière. C'est une suite logique. Donc là, on en est, en 2016, on était à 121 millions. J'ai perdu une bêtise, cette fois-ci, je vais checker.
Moi, les chiffres que j'avais en tête, c'est 160 millions d'euros en 2017 investis dans le cinéma européen. Toi, tu dois avoir le chiffre français.
Oui, parce que c'est 121 millions.
Et c'était une baisse de 35 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Donc il y a déjà une chute qui est catastrophique sur le cinéma européen.
C'est 151 millions dans le cinéma français et c'était 173 millions en 2012, par exemple.
Voilà.
Donc on baisse et ça représente à peu près 1,24 millions d'euros investis par film, par film par Canal+, qui est aussi une baisse puisqu'en 2012, on était à 1,55 millions d'euros. Donc en fait, on commence à s'inquiéter parce que, d'une certaine façon, qui va donner l'argent au cinéma français ? Et donc la Ligue 1, pourquoi c'est un problème ? Parce que on peut pas dire que le cinéma maintenant soit ce qui attire le plus les gens pour s'abonner à Canal+. En fait, c'est le sport. Clairement, pas se mentir, avec les Netflix, avec Amazon, avec le téléchargement ou autre, les gens n'ont plus vraiment tant d'intérêt que ça à s'abonner à Canal+, plus que ça. À part pour peut-être les créations originales de séries, si on est très fan des créations originales de séries de Canal+. Il y en a de qualité, hein, Baron Noir, tout ça, ça c'est de la qualité. Mais résultat, c'est le sport qui attire les gens sur Canal+. Et si Canal+ perd les droits de la Ligue 1, ce qui est le cas à l'heure actuelle, et techniquement, il ne peut pas racheter des droits à Mediapro, puisque Mediapro ne veut pas vendre des droits de match. En fait, ils veulent bien que Canal+ diffuse leur chaîne, parce que Mediapro va créer une chaîne spéciale Ligue 1.
À 25 euros par mois.
À 25 euros par mois, et qui vont autoriser Canal+ à diffuser, en fait. Donc, il faudra payer 25 euros par mois si vous voulez voir les matchs de la Ligue 1, à partir de 2020.
Faut être con, hein.
Donc ça, c'est un peu...
Ça me fait pas rire.
Il le vit très mal. Il n'a pas dormi depuis une semaine.
Mais donc, c'est ça qui crée de l'inquiétude, évidemment, chez le cinéma français. C'est que, non seulement, ils ont perdu la Ligue 1, mais ils ont perdu, je crois, ils vont perdre des droits de F1, ils vont perdre d'autres droits de foot et de d'autres sports, des choses qui sont déjà rabattues sur Bein, qu'ils diffusent, d'ailleurs. Donc, en fait, résultat, le fait, c'est que les gens, pourquoi ils viendraient s'abonner à Canal+. Et si Canal+ continue à perdre ses abonnés, on perd de l'argent et donc le cinéma perd sa plus grosse manne financière, en fait.
Et alors, surtout, ce qu'il y a, c'est que l'ensemble du financement du cinéma français est organisé, finalement, c'est une sorte de jeu de construction au cours des années, etc., mais finalement autour de Canal+. Mmh. Parce que, et en partie, enfin, même essentiellement, on en a parlé dans des précédentes émissions, la chronologie des médias qui en fait organise de manière interprofessionnelle les fenêtres de diffusion des films. Un an après la sortie salle sur Canal+.
10 mois.
10 mois, ouais. En fait, les fenêtres se resserrent petit à petit. Donc, c'était 4 mois pour le DVD et la VOD. Maintenant, c'est 3 mois.
Non, c'est 4 mois pour le DVD et la VOD, 3 mois sous condition. Et sinon, c'est 10 mois pour Canal+, mais ils demandent 6 mois.
Voilà. Et puis, 3 ans pour la SVOD, donc ouais. Netflix, etc. Et en fait, ce schéma et ces fenêtres de diffusion organisent l'économie du cinéma et fait qu'aujourd'hui, quand un film se monte, il doit préparer un plan de financement avec différents acteurs qui vont participer au financement du film. La chaîne premium, qui très souvent est Canal+, qui va faire le préachat pour la diffusion à 10 mois, l'éditeur DVD, éventuellement la chaîne hertzienne qui va acheter pour... Alors la diffusion hertzienne, c'est 22 mois, etc., qui vont donc mettre de l'argent en amont. C'est ce dont Perrine parlait, qui est le préachat, et qui va faire entièrement le budget du film.
En grande partie.
Après, il y a le producteur en même, mais c'est vraiment... Et l'argent du CNC, l'avance sur recette, éventuellement.
J'aime bien ce petit fact-checking.
Ouais. Non, mais il y a plein de choses, et c'est assez complexe. Et ce qui est...
L'argent de la drogue.
Ce qui est évident, c'est que à partir du moment où un acteur qui représente, même en 2017, même si c'est en train de tomber, environ 150 millions d'euros, si, comme c'est ce qui est en train de se profiler, les abonnements s'effondrent, c'est immédiat, c'est-à-dire qu'avec les accords tels qu'ils ont été cadrés, le budget qui va pouvoir être diffusé sur le cinéma français va s'effondrer aussi. Et du coup, de fil en aiguille, évidemment, c'est des boîtes qui vont fermer, c'est des techniciens qui vont moins travailler. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative dans le système tel qu'il est construit. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se dire « Ah ben, peut-être que Netflix, par exemple, va compenser l'investissement, puisqu'ils ne sont pas dans la filière, puisque les films qui sortent au cinéma n'arriveront que 3 ans après sur Netflix. » Du coup, on est dans un écosystème qui n'est pas adapté à une, entre guillemets, faillite de Canal+. Et donc, il faut réussir à imaginer quelles sont les solutions. Et moi, je pense qu'il y a une solution qui va se discuter bientôt. En fait, il y a deux échéances à venir. Il y a une échéance plus immédiate qui est la discussion sur la chronologie des médias, qui va, là, même pendant l'été, je crois qu'il y a un certain nombre d'échéances. Enfin, gouvernementales, c'est très compliqué. Et l'autre échéance, c'est en 2019, c'est la renégociation des obligations de Canal+, qui forcément, avec dans ces nouvelles conditions, va très certainement vouloir se sortir de ces obligations d'achat, ou en tout cas les rediscuter.
Le cinéma a demandé à ce que cette fin de négocier, enfin cette fin de contrat à 2019 avec Canal+, soit repoussée à 2021, en fait, pour sortir de cette histoire de... Sauf que ça ne va pas être accepté. Il y a peu de chances que ça soit accepté, soyons clairs. Mais après, il y a aussi le fait que, tout simplement, il y a d'autres acteurs qui sont maintenant... qui ont pignon sur rue dans le financement, en réalité, mais qui n'ont pas les mêmes obligations que Canal+. C'est-à-dire, c'est Orange, c'est Altice, c'est ce genre de gros fournisseurs d'accès à Internet.
Qui ont des box.
Qui ont des box, et qui, en fait, qui eux aussi peuvent être... Et financent, notamment Orange, tout ce que ne prend pas Canal+, en ce moment. C'est-à-dire que Canal+, maintenant, rachète au rabais, parce qu'ils ne veulent plus investir sur des films à plus de 7 millions d'euros, parce que ça leur coûte trop cher. Ils font exprès de faire des prix bas. Et donc, tout ça, c'est raflé par Orange, sauf que Orange n'a pas d'obligation. Pour l'instant, c'est Far West avec Orange. Donc, en soi, il faudrait qu'à un moment donné, et tout ça va arriver dans les années à venir, il va y avoir des renégociations pour qu'il y ait des obligations d'investissement dans le cinéma de ces gros fournisseurs d'Internet, qui sont Orange, Altice et compagnie. J'ai mentionné Netflix. Certes, Netflix, déjà, il paye pas ses impôts, mais Netflix a... Oui, encore une fois. Mais Netflix, il y a une taxe qui vient de passer cette année, la taxe la fameuse taxe Netflix, c'est-à-dire que maintenant, Netflix va devoir payer 2% de son chiffre d'affaires qu'il fait en France. Il va devoir payer 2% de ça à la France, dans la création. Ça va être une obligation. YouTube est dans le même cas, en fait. Donc ça va être une obligation qui est passée cette année à l'échelle européenne. Donc tous les pays, c'est-à-dire que même s'il est basé en Hollande, eh ben, il va payer une taxe sur ce qu'il fait comme argent en France. Oui. Donc ça va être une obligation. Netflix, ça va passer par là. Mais c'est pas de là qu'on va leur faire payer 12% dans la création française.
Et alors, du coup, une fois qu'on a présenté tous ces éléments économiques qui sont un peu rébarbatifs et complexes, ça peut ouvrir le débat, et là, je pense que ça va intéresser tout le monde et que chacun aura son avis là-dessus.
Jusque-là, c'est chiant.
Avec toi, Julien.
Est-ce que c'est une si mauvaise chose? Parce que finalement... Non, mais en fait, quel point de vue? Et notamment,
donc là, c'est non.
Notamment,
tous, et tu reconnaîtras les siens.
On a deux noms.
Notamment du point de vue du spectateur et du spectateur français, et d'un point de vue général de la production française. Parce que le problème, c'est que ce système, avec le temps aussi, il a engendré des monstres. C'est-à-dire que le système d'oubli.
C'est pas sympa pour Céline Sciamma, ça.
Non, mais je pense plutôt à des films comme Bad Buzz ou à d'innombrables films en fait, qui sont financés dans une logique qui est que, comme c'est les chaînes de télé qui ont des obligations d'achat, il faut financer des films avec des stars de la télé. Et avec du
coup, des stars qui parlent à TF1, à France 2, etc.
Exactement. Quoi. Et donc qui sont donc on a tout un cinéma français et un cinéma entre guillemets populaire, en tout cas qui se veut populaire français, qui sur ces dernières années s'est financé sur des personnalités qui ont été façonnées par la télé. Et du coup on est dans un truc qui est le cinéma ambitieux français, en tout cas celui qui coûte de l'argent, est complètement phagocyté par la télévision, et à côté on a un cinéma d'auteur ou un cinéma de festival qui arrive à tirer son épingle du jeu soit par sa qualité, soit par les contacts des producteurs, etc.
Ouais, il tire un peu la langue, le cinéma, sans ça.
Et dans ce contexte, on peut se dire que c'est aussi l'occasion d'une remise à plat de plein de choses, d'un coup de pied dans la fourmilière et peut-être d'un renouveau créatif.
Tu viens de nous dire qu'en fait on avait du cinéma pour la télévision, du cinéma fait pour les festivals, et en fait de savoir est-ce qu'on va pouvoir faire du cinéma pour le cinéma.
Ça serait pas mal.
Non, c'est pas tout à fait vrai, parce que par exemple, j'en reviens juste sur le Canal+, par exemple, avait, dans ce budget, il avait 17% qu'il était obligé d'investir dans les films de moins de 4 millions d'euros, par exemple. Donc c'était des plus petits films. Après, il avait une obligation, et là je check parce que je m'en souviens plus, il avait une obligation que je n'ai pas notée. Donc voilà.
Okay,
et donc,
mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que toutes ces règles, avec le temps, ont été détournés et pervertis d'un point de vue créatif, c'est-à-dire et d'un point de vue créatif même au sens économique, c'est-à-dire que comme vient de le dire Rafik, moi je suis d'accord avec ce point de vue, c'est que à terme on pouvait avoir tendance à perdre de vue dans la production la finalité qui est de faire des films pour les spectateurs et pour la salle de cinéma.
Non, mais ça, c'est une évidence que le cinéma était malade de ça, français, qui se répercute. D'ailleurs, ça parle au théâtre. Enfin, c'est la même chose dans le théâtre français. Bon, je ne suis pas trop l'actualité du théâtre, mais c'est pareil, quoi.
Bah, t'as le théâtre de.
Non, mais parce que la dichotomie est la même. C'est-à-dire que t'as d'un côté.
Théâtre public et théâtre privé, c'est actuel.
T'as d'un côté, le boulevard qui tâche, là, et puis de l'autre côté, du théâtre d'auteur assez imbitable.
Le site à poil.
Parfois, après, moi, le truc, quand même. c'est que Canal, moi, je trouve que. Il y avait quand même une vertu en fait là-dedans, et je trouve que dans Canal il y a eu des tentatives de créer des alternatives ou des ateliers qui étaient assez intéressants. C'est-à-dire que c'est quand même un instrument qui a donné naissance à des choses qui étaient vraiment bien, je trouve, pour la cinématographie française. Un outil comme Canal Plus Écriture, par exemple, qui est issu de tout ça, très clairement. C'était quand même il y a pas beaucoup de pays où t'as eu un
pour les abrutis comme moi qui savent pas ce que c'est Canal Plus Écriture.
Alors Canal Plus Écriture, je crois que c'est Nicolas Boukrieff qui était à l'origine. Ensuite, ça a été François Cognard, et toujours dans le cadre en fait de leurs obligations de production. Il prenait vraiment la problématique à sa source, qui était le développement du scénario, Alors je pense, parce que moi je suis pas dans le secret des dieux là sur là-dessus, sur les raisons de l'existence même de Canal Plus Écriture, mais qui était de.
Mais il faut tout simplement d'avoir des programmes à proposer qui soient pas les sempiternels justement films français qu'ils avaient.
Déjà un travail, un laboratoire, mais aussi donner la chance aux scénaristes français d'exploiter, de bien travailler aussi leur scénario.
La question du cinéma.
C'est-à-dire qu'un scénario comme Le Pacte des Loups, et je parle du scénario, je ne parle pas du film terminé, mais le Pacte.
Ça, je comprends bien, le
Pacte des Loups a été développé pendant des années à Canal Plus Écriture, et c'est un projet qu'ils ont pu porter parce qu'ils avaient justement.
C'est Canal qui
Dupontel vient de cette école-là.
Par exemple, voilà, remarquez que sur certaines grilles de la semaine, notamment sur le samedi, il y avait un public plus jeune que ce public plus jeune. Si tu devais. Parce qu'ils avaient, comment dire, ils devaient passer tant de films français par jour, tu vois.
Oui, ils avaient une obligation de diffusion.
Donc, du coup, ils n'allaient pas à ce public jeune leur balancer. Soit du Piala, soit du Danny Boone. Et donc la demande expresse de produire du cinéma d'horreur, elle émanait de Canal+, du cinéma d'horreur français, pour pouvoir, dans cette grille-là, avoir des films d'horreur à proposer à ce public-là.
Mais il y a les French Frayeurs, ils ont aidé vraiment les French Frayeurs à un moment donné. Ils ont sauvé en partie le cinéma de genre français.
Même avant qu'ils se lancent dans, comme tu le dis, à la source du problème, déjà, il y avait eu, dès le départ, dès le lancement de Canal+, il ne faut pas l'oublier, un effort fait vers une certaine cinéphilie. C'est quand même la première chaîne en France qui a décidé de passer de la version originale sous-titrée sur des films qui étaient récents. Il n'y avait que les ciné-clubs qui pouvaient s'autoriser ça après minuit. Pour des gens comme moi qui ont grandi dans les années 80, ça a été une révolution, quoi, de pouvoir choper la VO des films. Le format était systématiquement respecté. Un de leurs premiers gros coups, ça a été la diffusion de Star Wars en 84, dans les premières semaines de la chaîne.
Donc il y a eu le cinéma de quartier aussi.
Star Wars, c'était le film qu'il fallait avoir pour montrer qu'on était une chaîne moderne. Ils l'ont diffusé en 2.35, alors que les chaînes du monde entier passaient le film en pan and scan. Donc il a fallu quand même demander à la Fox une copie spéciale juste pour Canal France, etc. Et ils ont systématiquement gardé le format respecté pendant des années, alors que c'était pas du tout une habitude qu'on aurait pu s'implanter en France, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc il y a eu effectivement les développements thématiques des cinémas de quartier, comme tu l'as dit, avec Jean-Pierre Dionnet.
Il y avait cette émission de Nicolas Boukrieff aussi, où il passait des films ça allait de Django, de Ronnie Yu Hardcore, par exemple, de Paul Schrader, des films relativement rares et tout. Je veux dire, ce qui était intéressant de Canal+, c'est que ça a été aussi... Il faut savoir ce qu'on perd, en fait, avec tout ça. C'est pour ça que je rappelle ça. Et ça a été un creuset, en fait, dans la culture française, qu'évidemment, on a perdu ces dernières années. Il n'y a plus tout ça, Canal. Le Journal du cinéma ne veut plus rien dire aujourd'hui sur Canal.
Alors qu'à une époque, c'était génial. Il était blindé de journalistes, notamment.
C'était pas la même époque non plus.
Ça faisait partie, disons, de la même énergie, d'une part, et puis je pense que, époque ou pas, ce serait encore possible aujourd'hui d'avoir cette exigence-là.
Ah bah bien sûr, c'était lié aussi à des personnalités à la fois fondatrices de Canal et dans ses extensions, avec aussi les extensions du groupe Canal sur le câble, sur le satellite, etc. Mais avec à l'origine des personnalités comme René Bonnel dans les fondateurs, ou plus tard, en fait, avant l'arrivée de Bolloré, Manuel Alduy à la direction du cinéma de Canal+. C'est des gens qui sont réellement passionnés. Belle-mère aussi,
évidemment.
qui diffusait à leurs équipes, et qui déjà rassemblait autour d'eux des vrais passionnés. Et d'ailleurs, on va pas parler de foot, mais je veux dire, sur le foot aussi, ça reste une grande chaîne.
Dis-le que t'as envie de parler
pour traiter
mais
le football.
Mais il a raison, parce qu'il
rassemblait des passionnés. Après, tous ces gens ont disparu, en fait, petit à petit, avec l'arrivée de Bolloré.
Bolloré a fait beaucoup de mal à Canal+. Et là, c'est terrible, parce que depuis tout à l'heure, on parle de Canal+ au passé, à l'imparfait, et c'est assez violent. Canal+ n'est pas encore du tout enterré, parce que là, on parle d'une échéance à 2020, donc il y a encore 2 ans pour. Un an et demi pour sauver la baraque. Mais comment, la question, c'est comment Canal+ peut se sauver. Et en soi, moi, je trouve que finalement, ce qui est en train de se passer, le fait qu'ils perdent des abonnés, le fait qu'on est obligé de réfléchir à nouveau sur tout simplement le système de financement du cinéma en général, est une très bonne chose en réalité. Parce qu'on ne peut pas tout d'un seul coup, ce qu'on a fait pendant des années, parce qu'il n'y avait pas d'autres modèles. On n'avait pas Netflix et compagnie. On n'avait pas le développement d'Internet comme on l'a maintenant. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ça, au bout d'un moment, c'est archaïque et qu'il va falloir penser les choses autrement. Et que je suis, finalement, je suis désolée pour Canal+, que ça se passe aussi mal, mais c'est le moment de se réinventer, de réinventer des choses, de faire des choses vraiment différentes et de repenser ce système et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme ça a été le cas pendant près de 30 ans.
Pour le coup, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le moment de se réinventer. Le moment de se réinventer, c'était il y a 10 ans. Oui, c'est-à-dire que Netflix, on l'a vu arriver. C'est-à-dire que, et Canal+, avait, bien avant l'arrivée de Netflix, l'occasion de se réinventer correctement pour complètement remporter le marché. Il y avait un avantage concurrentiel qui était énorme. Et il y a une occasion manquée.
Avant Bolloré.
Exactement. Il y a eu des erreurs historiques.
Le plus gros catalogue de films en Europe, où ils auraient largement pu tenir tête à Netflix.
Largement, à un moment donné. Mais je veux dire, maintenant, là, c'est un constat de ça aurait dû, ça n'est pas. Bon, maintenant, le résultat est comme ça. Et ben, il va falloir faire des choses très différentes. Il va falloir faire les choses autrement. Et moi, je pense que le cinéma français ne peut pas constamment s'appuyer sur Canal+, parce que Canal+, de toute façon, on n'a plus les épaules aussi solides. C'est très logique. Et donc, à un moment donné, on a une multitude de financeurs qui sont là et qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, mais en Far West. Je pense sincèrement que c'est eux qu'il va falloir, à un moment donné, mettre à contribution. Clairement. Et puis après, peut-être que le cinéma français, je ne sais pas comment il peut se réinventer, je n'ai pas la science infuse à ce niveau-là, mais clairement, il y a quelque chose qui est possible, et c'est très bien qu'on se réinvente à un moment donné.
Dans les exemples qu'on a donnés, justement, comme tu le dis, en revenant sur le passé, il y a une morale aussi à tirer de ces exemples-là. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été faites alors que, a priori, personne ne l'ait demandé. C'est-à-dire
qu'on
voilà, ils ont devancé le public dans ces demandes. Évidemment que lorsque Canal+ a décidé de diffuser du porno, c'était un produit d'appel pour ses abonnés, mais aucun abonné n'a jamais demandé à ce qu'il y ait un magazine du cinéma porno avec les coulisses, et que tout d'un coup ce truc un peu obscur pour les gens devienne concrètement une industrie à leurs yeux.
Et qui était un magazine érudit en plus de
cinéphile. Mais un truc culte, maintenant tout le monde connaît le journal du Hard. Enfin, c'est pas un truc, c'est même pas un truc obscur comme maintenant.
C'est anticiper les demandes du public et pas le suivre bêtement, arrêter de le prendre pour un débile, qu'effectivement le fait de passer des versions originales sous-titrées ne va pas effrayer les gens au point ils vont se désabonner de ta chaîne, etc. Enfin, c'est
c'était pas le leçons par le bas, en fait, Canal.
Les leçons sont là, quoi. Bon, il suffit de se baisser, de servir.
Mais c'est compliqué.
C'est compliqué.
Non, mais
c'est
plus,
compliqué,
non, mais
c'est madame.
C'est le discours avec les chaînes, j'en sais quelque chose parfois sur. Et je parle pas de Canal en plus, mais c'est souvent que c'est vrai, ils ont une sale tendance à sous-estimer leur public, quoi. Ouais. À dire, ah non, mais attention, nos gens, notre public ne connaît pas ça. Ça, c'est le gros truc qu'on me sort. On me l'a sorti pas mal de fois, moi, dans mon cursus professionnel, et du coup ils te nivellent tout par le bas. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne font absolument pas confiance aux gens, et du coup t'as envie de leur dire, mais on peut créer en fait l'envie de ça. Tu sais, tu vas pas perdre les gens parce que tu leur expliques pas. L'idée, c'est de leur donner
surtout
envie.
Nous-mêmes, on l'a eu d'où, ce goût-là, si ce n'est par...
Oui, cette curiosité-là.
Il faut tirer un peu par le haut.
Une certaine télévision.
Et je pense que là, on s'acharne sur Canal parce qu'il y a l'histoire de la Ligue 1, mais en soi...
C'est notre point d'entrée,
voilà, exactement.
Dire.
Mais en vrai, on pourrait faire limite une émission par chaîne. Il y a des trucs à dire sur TF1, il y a des trucs à dire sur Arte, il y a des trucs à dire sur France Télé, qui, eux aussi, ont des obligations d'investissement, mais différentes, en fait. C'est eux qui se mettent des obligations aussi, par exemple, dans le cas d'Arte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, il y a des choses à dire sur chacune des chaînes. Et le résultat, et ce qui est exactement ce que viennent de dire Rafik et Julien, c'est que cette idée, c'est que vraiment, on a tellement peur de perdre de l'audience, de perdre du public, de perdre de l'entrée, de perdre de l'argent, ce qui est une crainte normale et logique. Mais je veux dire, résultat, on n'est plus novateur, pionnier, on prend plus de risques. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? On se bouffait par ceux qui en prennent, c'est-à-dire des gens comme, mais qui viennent d'ailleurs. Donc au bout d'un moment, est-ce que justement, c'est pas voilà, cette leçon-là à tirer, tentons, au risque de toute façon, là, la chute, elle est là. Donc tentons.
C'est beau.
Tentons.
On n'a plus le choix que d'innover.
Osons, comme disait Jean-Pierre Cabache.
La Startup Nation est en route.
C'est ça. La Startup Nation.
J'ai passé du communisme.
Moi, je citais le Cabache.
En marche. Le communisme en marche.
J'ai suivi le triste cours de l'histoire.
C'est ça. On s'approche de la fin quand même. Ouais. Mais vous pensiez y échapper. Mais non, il y a encore un jeu.
Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé.
Vous savez, celui-là, c'est mon préféré. Évidemment, c'est l'instant VF.
Je le déteste.
C'est l'instant David Honora. C'est l'instant David Honora.
Alors, personne ne parle. Voilà. Je le fais en solo.
Très bien. Donc, c'est un extrait, je le dis, pour ceux qui découvrent l'émission. Donc, on est là jusqu'à demain, visiblement. Pour ceux qui découvrent l'émission, l'instant VF, c'est donc un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Et donc, celui qui trouve, mais en l'occurrence, il n'y a que David qui joue, c'est ça, vous avez tous décidé de laisser.
Doublé dans la langue de Coé.
Doublé dans la langue de Coé, exactement.
C'est Picard et c'est très bien.
Voilà. Celui qui trouve, ça, on commence complètement. Dans n'importe quel sens. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration, disais-je.
On n'a pas beaucoup de temps. Mais on vit et on meurt par le temps, n'est-ce pas? Et on ne se permet jamais le péché de tourner le dos au temps.
Ah, ça fait moins les malins. Hein.
Ça me dit quelque chose, moi.
Ouais. Tu peux tenter un truc.
Je sais pas pourquoi. Non, alors,
tu peux, tu pouvais tenter des choses.
Je pense à Dark City, j'en ai.
Non, c'est pas Dark City.
Moi, j'ai The Dark Knight.
Non, c'est pas Dark Knight. On l'a déjà mis de Dark Knight.
Ah bah, je sais pas. Oui, oui, mais je sais.
J'allais dire un truc de voyage dans le temps, genre l'armée des 12 singes.
Non,
c'est pas Highlander.
Non, c'est pas Highlander.
Il y a un truc avec du temps.
Il y avait de l'eau à côté de lui.
Oui, il y avait de l'eau à côté de lui. Ouais, ouais, ouais.
De l'eau et du temps.
Donne-nous un indice. Ne nous laisse pas dans le noir.
L'indice, ce serait de passer le deuxième extrait, mais là, vous allez trouver tout de suite.
Ah bon,
parce que l'indice, enfin l'extrait est là pour le coup beaucoup plus facile. Vous voulez le deuxième extrait?
Bah oui. On est nul.
Allez, c'est parti.
Wilson.
Ah, c'est Solomon.
Ah oui, c'est Solomon.
Excuse-moi, Wilson.
Je suis désolé, Wilson.
Je suis désolé.
C'est vrai que j'ai failli pleurer en découpant le son tout à l'heure.
Mais c'est Tom Hanks qui est censé parler dans la première.
En fait, il se parle tout seul.
Mais
quand il se parle tout seul, quand il prépare son. C'est quand il prépare son radeau. Oui, il est un peu en Gollum.
Il est en Gollum.
Il est un petit peu en Gollum. J'y ai pensé aussi. Bon, bah voilà, bah vous êtes nuls, hein, comme à chaque fois.
Bravo.
Merci quand même. On passe. Il n'y a que Julien Dupuis qui a trouvé une fois dès le premier extrait.
Ah ouais, c'était quoi?
C'était un Carpenter. C'était The Thing.
Ah ouais, bah
la VF de The Thing. Eh ouais.
C'est fort ça.
Watch and Learn.
Ouais, merci. Allez, merci.
C'est parti.
Internet. Internet.
Il est bien celui-là. Il marche à chaque fois. Il marche à chaque fois. On avait un auditeur qui avait trouvé, figurez-vous. C'était The French Phenom qui avait trouvé notre jeu VF.
Gloire à lui.
Il disait que c'était Jean-Philippe Puy Martin sur la VF de Solomon.
C'est son père.
C'était peut-être son père. Je pense que c'est quelqu'un de sa famille. Donc, vous l'avez compris grâce à ce très beau jingle, on va déballer les questions de nos amis auditeurs. On va commencer par Lucio qui nous demande un mot sur le trailer du reboot de Suspiria. Tiens, c'est marrant, Anaïs Borda, je m'en parlais juste avant l'enregistrement de cette émission.
Effectivement.
Qu'en avez-vous pensé, madame?
Alors, je ne l'ai vu qu'une fois et je trouvais que c'était très propre. J'étais un peu déçue. Je trouvais que ça avait l'air très... Tout le monde est très bien coiffé. Je sais pas, pour l'instant, je suis un peu mitigée. Quoi. Ça n'a pas l'air d'être aussi poisseux que j'aurais aimé.
Très bien.
Censé être poisseux.
Moi, je regarde pas trop les trailers d'habitude, mais j'ai vu celui-ci. Oui. Et j'aurais pas voulu que ça soit poisseux, justement. Je trouve ça très peu coloré, très terne.
Moi, je trouve ça a l'air d'être un bon épisode de Derrick.
Super dur. On est plus dans ce genre de tonalité. Ouais.
Non, et puis je trouve que c'est une bonne idée, moi, de faire un remake de Suspiria. c'est une bonne trouvaille. Quoi.
J'aime vraiment
pas le cast en plus.
Le réalisateur est horrible.
Non, mais moi, au-delà de ça, je trouve que le trailer m'a un peu donné envie. Je trouve qu'il avait une esthétique pour le coup terriblement 70s en fait. Il y avait un truc hyper 70s qui moi m'a un peu botté. Je me suis dit tiens, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc un peu dégueulasse chaud. Et là j'étais un peu.
C'est quand même un peu dégueulasse.
C'est un peu dégueulasse. C'est vraiment les termes que j'aurais utilisés.
Mais non, mais je vous trouve dur. Oh là là.
C'est vraiment.
Le principe de Suspiria c'était pas justement de tourner le dos à l'esthétique des 70s.
Bah c'est très bien. Maintenant ils tournent le dos à Suspiria. Je trouve que c'est pas mal.
Intéressant.
Mais sinon le meilleur remake de Suspiria s'appelle Climax. Allez le voir quand il sort, c'est très sympa.
Ah oui, tiens, on me signale en régie que c'était pas. Alors attends, c'était qui Joël, si tu enlèves les questions au fur et à mesure que tu édites les trucs, on comprend rien. Bref, c'était un autre auditeur que celui que j'ai cité tout à l'heure. C'était The French Phenom, je crois. En fait, c'est Super Yao qui avait trouvé en premier. Il y avait deux personnes qui avaient trouvé.
Donc on est vraiment nuls.
Vous êtes vraiment des gros nuls. Ouais.
Les gars ou les filles.
Il faudrait qu'on fasse un quiz et qu'on invite des invités.
Hein, et qu'on leur mette le nez dans leur caca. Pour voir qu'en direct, c'est
non,
pas du tout pareil.
Il serait fort, il serait fort.
Très bien. Petite question de Sublime Tricast sur le cinéma français. Surtout, nous dit-il, sur Saïd Ben Saïd qui a produit les derniers Verhoeven de Palma Cronenberg. La France doit-elle, peut-elle recycler les laissés pour compte d'Hollywood?
Bah, si on n'a plus l'argent de Canal, comment on va produire De Palma, hein? Dites-le-moi.
C'est d'ailleurs, on a plusieurs questions sur De Palma, notamment.
Je suis au taquet, j'ai tout suivi.
Très bien.
On pourrait répondre. Non, mais
si on nous demande pourquoi il a autant de problèmes pour la sortie de son nouveau film.
Pour le coup, alors, attends, je réponds à quelle question là?
Celle que tu veux.
Non, mais pour la première question, effectivement, enfin bon, ça rejoint le débat qu'on a eu, mais effectivement, mine de rien, le système français. Profitait aussi à certains auteurs qui, notamment américains ou qui ont eu des carrières américaines comme Verhoeven, qui pouvaient venir faire des films en bénéficiant du système et des obligations d'achat dans le cinéma européen et des coproductions et puis tout le cinéma européen avec un certain nombre de choses comme les crédits d'impôt et les choses comme ça peuvent être un peu un Eldorado pour ce genre d'auteurs qui ont du mal à se faire financer aux États-Unis.
Je ne sais pas si c'est ça qui sauvera le cinéma français, mais en tout cas, c'est bien si ça donne elle, quoi. Au bout du compte, c'est très bien. Après, si ça ne donne pas elle, peu importe, quoi. Enfin, juste, je suis contente de voir Verhoeven, quoi. Après, s'il avait fait un mauvais film, j'aurais été moins contente de le voir. Enfin, je pense pas que de faire les laisser pour compte d'Hollywood à un moment donné soit une solution ou une non-solution, en fait. C'est-à-dire que c'est très bien si quelqu'un croit en eux et a des projets avec eux.
Et si l'auteur n'est pas artistiquement mort non plus.
Voilà.
Effectivement, quand tu récupères un Polanski alors qu'il est au sommet de sa carrière d'une certaine façon et qu'il arrive et qu'il te fait le locataire, c'est un bon deal, on va dire. Ouais. De Palma, quand il est un peu fatigué de son côté.
Oh là, attention, attention.
Je ne le trouve pas.
Attention.
C'était très politique.
Attention au truc.
Le cinéma français ou même le cinéma européen tout court ne semble pas. N'utilise pas, c'est que Hollywood, comme on l'a vu, a décidé de tourner le dos à toute création entre guillemets originale en ne faisant plus que des franchises. Faut savoir qu'un studio comme la Warner dort sur quelque chose comme 200 000, je crois, scripts jamais adaptés. Je sais pas si quelqu'un aurait l'intelligence d'aller fouiner dans leur cave, de leur acheter avec un quignon de pain parce qu'ils en ont plus rien à foutre, certains des chefs-d'œuvre qui dorment dans leur sous-sol pour en faire effectivement des films au niveau européen avec certains de ces cinéastes qui seraient tout à fait en mesure de le faire. Voilà, j'ai des exemples comme ça qui me viennent en tête, mais que je n'ai pas cité parce que
tu veux les garder pour toi et faire moins d'argent.
Voilà, c'est ça.
Et David, donc la question sur De Palma.
Donc la question sur De Palma, c'était quoi?
Pourquoi De Palma a autant de problèmes pour la sortie de son nouveau film?
Apparemment, ça s'est très mal passé avec son producteur qui, pour le coup, est un producteur allemand. En fait, il avait fait.
Ça a à voir le fait que ça soit mal passé.
Non, mais parce que tu as cité Saïd Ben Saïd. Qui avait produit Passion et qui apparemment aurait envie de produire son prochain projet qui serait inspiré de l'affaire Weinstein. Donc De Palma parle d'un film qui se situerait dans le secteur du cinéma. Il envisage de le tourner en 2019 au Festival de Toronto. Donc pendant le festival, dans ce cadre-là, apparemment suivre l'histoire d'un producteur qui aurait des violences sexuelles. Et avec Saïd Ben Saïd. Là, c'était un autre producteur. Il a tourné donc Domino en Allemagne et le tournage a été extrêmement compliqué. Il a été en conflit avec la production et du coup, la question de la distribution est bloquée à ce niveau-là. On espère pouvoir voir le film très vite.
Ça rappelle un certain Terry Gilliam. En termes de problématiques.
Oui,
sinon,
j'allais dire avec plus de talent, mais bon.
On touche à son Brian, du coup, il est méchant. Il se passe un truc assez étrange dans nos commentaires. Il y a plein de gens
qui demande l'avis de Rafik sur 120 battements par minute. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas.
C'est un happening.
Je ne sais pas pourquoi. Il y a une flash mob dans les commentaires. Ouais. Est-ce que tu l'as
c'est
vu
bon, il adore.
Je l'ai vu dans les meilleures conditions possibles. Je l'ai vu une projection du CNC. Une des productrices est montée sur scène et s'est félicitée pour la première fois de pouvoir montrer son film à une salle où elle connaissait absolument tout le monde. Ce qui donnait une certaine idée de justement de l'état de la production française où finalement tu peux monter des projets simplement par un certain clientélisme qui n'a même plus besoin d'être déguisé. J'ai trouvé le film totalement pourri, mais comme pas plus que d'autres films français que j'ai pu voir ces dernières années. J'étais néanmoins surpris parce que j'avais pas l'impression que le cinéma français actuel empruntait à ce point au style télévisuel des années 80. Et je parle en France, hein, puisqu'on a l'impression de me taper vraiment un téléfilm des années 80. Cependant, plus le film avançait et plus j'avais de gros problèmes qui étaient plus de l'ordre de l'esthétique, mais de l'ordre de la morale, en fait. Et j'ai été carrément scandalisé par, je spoil, hein, par la fin du film, où pour te faire avaler dans le gosier la mort d'un personnage principal, on t'impose une minute de silence sur le générique final en coupant tout le son, quoi. Et évidemment, ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est que personne dans la salle ne peut bouger, parce qu'on est tous censés se recueillir sur la mort de ce personnage. Et donc, je me suis fait un plaisir de me lever bruyamment, parce que le film était terminé, bordel, j'ai envie de sortir ma clope et de bousculer tout le monde, et j'ai vraiment haï le film. Et du coup, rentré chez moi, je me suis inscrit à une page Facebook, je crois qu'on était quatre, qui était la page anti 120 battements par minute, un truc comme ça, juste sous le coup de la colère, quoi. Mais voilà, donc je le mets 6 pieds sous terre.
D'accord, ok. Ah ouais, je comprends pourquoi les gens nous posent des questions. C'est bien, c'est bien.
Il y a des gens qui savaient des choses.
Hein, ouais, visiblement. Il y a des gens qui savaient des choses, C'est les trois autres du groupe Facebook qui posent des questions, je pense. Effectivement. Zibou nous demande, tiens, ça va être le sujet d'une prochaine émission pour nos ciné, si Bayona va sauver Jurassic Park ou se faire manger par les dinosaures d'Universal. Perrine Quetson.
On verra ça demain matin.
Allez, on y croit. Allez, on y croit. On y croit un tout petit peu. Allez.
Non, s'il vous plaît.
Moi, j'y crois.
On peut le dire.
On y va tous demain. Mais moi, je veux y croire. Je veux pas être dans le même état que Jurassic World 1. Et j'y crois, là. Ça y est. Ça sera jamais Jurassic Park. Mais ça sera jamais.
Je pense pas qu'il pourra pas nous faire un Bayona dans les conditions actuelles.
Non,
c'est impossible.
Il pourra
peut-être
bien
sauver les meubles. Moi, ce que j'attends, c'est au moins qu'il sauve quelques meubles.
Ouais, moi aussi. Juste quelques commodes. Allez.
Juste quelques commodes. C'est mignon. C'est super mignon. Xavier nous demande pourquoi les distributeurs sont frileux avec le cinéma chinois aujourd'hui. Je pense, dit-il, au dernier John Woo, Stephen Chow, Ringo Lam et les prods Workshop, alors qu'ils n'hésitent pas avec le cinéma coréen. Je me retourne droite. Julien Dupuis, qui est plus au fait que nous du cinéma asiatique, peut-être.
Moi, j'ai l'impression que de toute façon, le cinéma chinois, il s'exporte pas. Je pense que les Chinois, ils n'en ont rien à foutre, quoi, parce qu'ils ont leur marché local et que les films, ils sont plus rentables sur leur marché local. Je pense aussi que on est dans un cinéma qui tend à tout niveler, en fait, où tous les films se ressemblent, etc. Et c'est ça qui marche aujourd'hui. Et que le cinéma chinois, bon, mauvais, hein, je pense à même un blockbuster chinois là, comme Chasseur de monstres, qui est sorti directement en Blu-ray en France et qui a remporté un carton phénoménal en Chine. C'est pas un bon film, mais c'est un film exotique. C'est un film où il y a un monsieur qui accouche d'un monstre, par exemple, et qui est un film pour enfants. Donc, moi, je vais me montrer à mes petits. Bon, ça les a quand même un peu bousculés, quoi, mais voilà, quoi.
Ils sont en thérapie depuis.
Non, je pense aussi qu'il y a un autre problème, c'est que on revient à cette problématique des exploitants. Je pense que le parc de salles français n'est pas adapté aux films chinois. C'est-à-dire que les films chinois, c'est des films qui croient très fort dans les avancées technologiques du cinéma, donc ils sont quasiment tous systématiquement tournés en format IMAX, en 3D, et là il y a le HFR qui arrive, qui arrive très fortement, et notamment avec Twark. Je vous laisse imaginer si vous avez vu un Twark en 3D déjà,
t'as le cerveau qui explose comme dans Scanners, donc à mon avis si tu le vends à HFR en plus, je sais pas, tu dois fondre.
Bah c'est pas
le c'est reste que, de toi doit fondre.
C'est surtout qu'avec le HFR, elle va se sentir encore plus autorisée à faire le fou.
Ouais, ça va être un truc de malade. Et là, c'est le prochain Detective Deal, hein, et c'est le pacte, je crois, qui le sort en France et qui avait annoncé au début que ça serait en HFR en France. Et c'est un peu moins clair, j'ai l'impression, sur les dernières annonces. Ouais, et puis, on voit la distribution de HFR en France est tellement calamiteuse que voilà. Et je pense que ça, c'est aussi un très gros frein, en fait, à l'exploitation des films chinois.
Il y a aussi un aspect, comment dire, entre guillemets, élitiste, enfin, de catégorie socio-professionnelle, parce que le cinéma coréen touche un certain public français, qui est un public citadin et de CSP un peu élevé. Les films sont en partie faits pour ça aussi, c'est des films qui passent en festival, tu vois, donc tout de suite, on cible un certain public, et du coup, ça sort en salle, parce que ce public-là va voir les films en salle. Le cinéma chinois est un cinéma populaire, très populaire. Mais on voyait déjà ça dans les années 80. Dans les années 80, les films de Hong Kong ne sortaient pas en salle. Ils allaient directement sur le marché vidéo, sur la location vidéo, là où leur public était. Ce qui sortait dans les salles, c'était des films japonais, parce qu'à l'époque, le Japon avait cette image, avec effectivement, cette cote-là. CSP+, quoi. Donc je pense que c'est surtout ça. Donc c'est dommage, mais ça prouve aussi que le public populaire n'est plus le bienvenu en salle. C'est pas qu'il a pas envie d'y aller, c'est que je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour que ce public populaire puisse retourner en salle, en famille, d'abord parce que ça coûte cher, et ensuite parce que...
Ça déjà, c'est pas un frein, c'est énorme. Ouais. David,
Je voulais juste signaler qu'on a appris au début du mois de mai que Netflix avait acheté un film qui s'appelle Us and Them de René Liu, qui était en tête très largement du box-office chinois. Et donc qui peut aussi être un nouvel acteur pour la diffusion des films chinois à l'international.
Ah, mais là, pour la 3D, l'IMAX, tu repasseras. Quoi.
Ouais, c'est autre chose.
Tu l'as pas l'IMAX, quoi.
Je sais pas quel type de film c'est. Apparemment, c'est un blockbuster. Ça a été tourné dans une région de la Chine très très froide. Il y a un voyage en train. J'en sais pas beaucoup plus.
Après, pour le dernier John Woo, j'ai entendu pique-pan de moi du film.
Ah oui.
Tout le monde y compris le grand fan, donc je pense que c'est peut-être aussi
d'autres considérations
qui rentrent en ligne de compte. Après, je pense que le cinéma chinois subit un peu ce que subit le cinéma indien, en fait. C'est-à-dire qu'il y a culturellement, il y a aussi une façon de faire des films chinois, enfin, comme il y a une façon de faire des films bollywoodiens. C'est un certain type de mise en scène, c'est un certain type d'acting, auquel je pense le public français n'est pas toujours particulièrement éduqué. Mais je ne parle pas forcément des films comme John Woo, par exemple, ou des films hongkongais, en fait. Je parle plutôt des films plutôt populaires, justement, à la Monster, enfin, aux chasseurs de monstres, ou des films plutôt vraiment populaires chinois, où là, pour le coup, le public français était plus éduqué au cinéma japonais, plus éduqué au cinéma coréen, et qui est plus facilement accessible en soi, je trouve, qu'un cinéma chinois pur et dur. Et il y a un souci, je pense qu'il y a tout simplement, les distributeurs ont peur de l'investissement que c'est pour derrière le retour que ça va être, c'est-à-dire pas grand-chose, en fait. Et je crois qu'il y a une peur purement aussi économique, quoi.
Puisqu'on a parlé de Détective D, on nous demande si on ne trouve pas, on nous demande notre ressenti sur le fait que l'été semble plutôt pas mal côté blockbuster, l'été qui vient entre Fallen Kingdom, Les Indestructibles 2, Mission Impossible 6 et donc Détective D 3 qu'on nous cite en exemple. Cette question vous laisse sans voix.
Je sens
c'est assez peu pourvu, finalement.
Oui, c'est pas grand chose.
Il n'y a pas grand chose. Enfin, après, il faudra voir les films. Bon, j'imagine tout ce.
Surtout que ça ne veut plus dire grand chose, voilà. En fait. Ouais. L'été de blockbuster, c'est tellement explosé partout.
C'est terminé.
On vient de se taper que des Marvel et des Star Wars. J'ai l'impression qu'il y en a un nouveau toutes les 3 semaines. Donc,
c'est l'été indien.
Ouais, finalement, Mission Impossible, ça me paraît nouveau presque à côté de ce qui s'est passé en début d'année, fin d'année dernière.
Un peu.
Ok. Vous avez le droit de ne pas être enthousiaste. Hein.
Regardez sur les décennies précédentes où effectivement l'été était spécifique à un certain type de sortie. Enfin, je pense sur les années 80, 90.
Début d'année
2000, effectivement, oui, tu avais quand même un panel plus large de trucs à prendre.
Qui t'envoie de raréfaction. Mmh. Très bien. On nous demande notre avis sur le trailer de Predator, mais je crois qu'on l'a déjà donné, il me semblait, mais on peut le redonner ici. Pas vu.
Ça a l'air un peu mieux qu'un épisode de Derek, quoi, mais bon. Non, c'est pas.
Sur l'échelle des épisodes de Derek.
Plutôt saison 1, saison 2.
Mais moi, il me fait un peu peur, hein, moi, ce film. Apparemment, plus, il y a eu des gros problèmes là, sur le tournage et tout. Il y a eu beaucoup de retakes. Je suis pas sûr qu'elles aient toutes été assurées par Shane Black, en plus.
Donc, je sais pas. C'est pas très engageant. Après, je pense qu'il y aura des beaux restes hein, quand même, mais c'est pas très très engageant.
D'autres avis? Non.
Non.
Non. NSPP ne se prononce pas. Ok, très bien. Ok, c'est très bien. Samurai Jack nous pose une question qu'il avait déjà posée dans un ociné club, mais qu'il n'avait pas pu avoir de réponse puisque Rafik n'était pas là. Alors qu'elle t'est adressée, c'est sur ton ressenti devant la dernière saison de Samurai Jack. Question qu'il lui pose tient à cœur parce que c'est son pseudo.
C'est lui-même.
Donc c'est
d'accord.
Lui, en fait.
Ben,
il te demande ton avis.
Oui, ben, Star Wars.
Qu'il va falloir préciser.
Bah, c'est-à-dire que ça fait maintenant quoi, 18 ans que je vois des gens comment dire, anxieux à l'idée de pouvoir faire l'expérience d'un nouveau Star Wars et de se persuader à chaque sortie de film que
fait,
c'est celui-là, c'est le bon.
Ils peuvent le faire en regardant Samurai Jack.
Voilà, ça existe, ça s'appelle la saison 5 de Samurai Jack, arrêtez de nous faire chier. Voilà, tout simplement Star Wars.
Magnifique. On va prendre une dernière question. Pierre qui nous demande, Jack Audiard arrive aux États-Unis avec les frères Sister dont on a pu découvrir, c'est gentil, la bande-annonce. Ça fonctionnerait donc dans les deux sens, le brain drain.
Alors, il n'arrive pas aux États-Unis.
Ouais, hein. Attention, précision.
Ça reste quand même une production Why Not. Alors, il y a un peu d'argent américain parce qu'il y a De Luca qui est dans la boucle et tout, mais ça reste quand même une production française avec une équipe française, etc. Et il se trouve que je crois que c'est
française.
John C. Reilly qui avait acheté les droits déjà du bouquin livre. Et qui allait chercher Audiard, mais ça reste en langue anglaise en fait. Ce qui m'intéresse, c'est Audiard qui va faire un western.
Ouais.
Parce que le western, c'est le genre, je pense, qui se plie le moins aux modifications des auteurs qui s'en emparent. C'est-à-dire que c'est le genre qui, pour plein de raisons, impose le plus un certain type de filmage, un certain type de cadre, voire même, je pense, un certain type de thématique et de personnage. Et donc, moi, c'est là-dessus que j'attends, en fait, Audiard.
Même si dans la thématique et les personnages, Deepan était, à mon sens, déjà très proche des logiques et des codes du western.
Ouais, mais sauf qu'il l'importait ailleurs. Enfin, là, ça va être intéressant de voir comment, justement, il pervertit tout ça. Quoi. Le truc qui est intéressant, c'est qu'Audiard est un grand, grand fan de western. Je crois que c'est Rio Bravo qui est son film préféré.
Tu vois, c'est pas le pire.
C'est pas mal. Et d'ailleurs, Julien, qui est
timide
modeste, pour le dire,
ne le dira pas.
Réaliser un excellent documentaire sur Jacques Audiard. Je ne sais pas s'il y a moyen de le voir.
Il a été recommandé dans une émission de Nocidé, d'ailleurs.
Ouais, très bien.
Il est rediffusé sur la chaîne. Alors déjà, c'est
13e
rue.
13e rue.
Est-ce qu'il est rediffusé déjà chez eux? Non,
oh, mais vous me contactez.
Non, 13e rue. Sous le manteau, vous dites-vous que vous venez
vous
de Nocidé.
Vous envoyez un petit DM sur Twitter.
Voilà, on va s'arranger.
Vous lui faites un petit bisou et puis
non,
il va vous le
donner. Je ne sais pas s'il est encore diffusé. Il sera rediffusé.
Il sera rediffusé. Il y aura une édition Blu-ray avec des bonus.
Il faut le dire.
Mais évidemment que c'est un très bon documentaire. C'est Julien qui l'a fait. Tiens, on nous dit. Ah, je prends quand même une dernière question parce qu'on est bien là tous ensemble. C'est quelqu'un qui est avec un pseudo absolument horrible que je ne prononcerai pas. Parce que c'est un truc norvégien ou je ne sais quoi. Ouais, je ne sais pas. El Kaijufu. Ah non, El Kaijufu. Ah, je viens de comprendre en le disant. Elle est pas con. Tant qu'à parler de Genndy Tartakovsky, Rafik, es-tu impatient de voir Hotel Transylvania 3 ?
Pas spécialement. Mon fils, oui, par contre.
Ça va très bien.
Avec ça. Mon fils est fan des Hôtels Transylvania. Je l'avoue, à titre personnel, un peu plus de mal en VF, bien sûr, à m'y faire. Après, j'apprécie toujours le style animé, mais je reste sur Samurai Jack.
Il y a toujours des beaux morceaux d'anime et de mise en scène dans les Transylvania.
Après, ça vise un public spécifiquement enfantin, quoi.
Mais je comprends pas qu'il reste là-bas chez Sony pour ça, alors qu'ils l'ont sapé son Popeye et tout.
Ouais, pourquoi
Tartakovsky est vraiment un auteur qui demanderait à s'épanouir plus, quoi.
Il devait nous faire The Power of the Dark Crystal, et puis effectivement, à la place, il a fait Hotel Transylvania. Ouais, moi, j'ai l'impression d'y avoir perdu au
change. Dommage. Ouais.
Et voilà, et sinon, je réinsiste, il a fait Star Wars, ce qui est pas mal pour.
Ouais, ça va.
Dans sa carrière. Quoi. Bon, ça s'appelle Samurai Jack.
C'est assez honnête. Voilà. Comme...
Non, je disais ça tout à l'heure, j'ai pas été plus explicite, mais ça simplement parce qu'on y retrouve la fibre mythologique qu'on est en droit d'attendre d'une saga comme celle-ci.
Il me semble qu'on en avait parlé dans une émission de nos cinémas, il y a très longtemps, mais ça me rappelle quelque chose. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce Nos Ciné Club. Merci à Quentin, la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, à Joël pour la transmission des questions, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Ta gueule ! Viens ici, sale enculé !
Salaud ! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.